Émission spéciale de Radio Girol en direct. Histoire de la culture libre. Bibliothèque Jean de la Ville de Miremont.
Et bonsoir à tous et... Ah. Hop, déjà, ça commence. Et bienvenue en direct de la bibliothèque Jean de la Ville de Miremont. C'est un peu long. Pour les habitués bordelais, c'est la bibliothèque Saint-Augustin. Voilà, situé dans le quartier Saint-Augustin à Bordeaux. On est ensemble pour à peu près 2 heures d'émission en direct sur l'histoire des cultures libres, avec à la fin un petit extra, un concert de Jonathan et David, toujours en direct. Alors je vais passer la parole à Eric qui a co-organisé l'événement avec le collectif Girol.
Merci Yorick, donc bonsoir à tous, merci pour ceux qui sont présents et merci à ceux qui écoutent en direct sur Radio Girol, sur girol.org. Donc effectivement, première émission ce soir sur l'histoire de la culture libre. Voilà, donc c'est un projet qu'on a mené déjà depuis un petit moment avec le collectif Girol, donc dans les bibliothèques bordelaises, bibliothèque Jean-David de Miremont et la bibliothèque du Grand Parc qui sont ici présents aussi. Merci à eux. Donc avec la volonté de proposer, de promouvoir un peu la culture libre dans les bibliothèques. C'est voilà, une volonté qu'on avait depuis un petit moment. Donc là, c'était l'occasion, grâce au partenariat qu'on a mené avec le collectif Girol, qui sont super sympas et qui nous ont bien reçus, de mener ces actions. Donc on a 2 émissions de radio, une ce soir et une prochainement au mois de mai au Grand Parc. Donc ce soir, on va parler d'histoire de la culture libre. On a la chance d'avoir des super intervenants qui sont avec nous ce soir. Donc on a Cédric Fabre, juriste, et Rico d'Alvarez, artiste net. Voilà. Bon, il nous en dira plus tout à l'heure. Et en plus, à la fin, en bonus, un concert exclusif de Jonathan et David en direct aussi à la bibliothèque, directement. Donc voilà, bonne émission à vous et, voilà, et au plaisir de vous revoir pour la 2e émission au Grand Parc.
Alors, on va commencer par présenter nos intervenants. Bonsoir Cédric.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Alors, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Cédric Favre, expert juridique en droit des TIC, technologies de l'information et de la communication, plus particulièrement spécialisé dans tous les domaines liés au numérique, notamment la culture libre et les logiciels libres.
D'accord. Et Rico ?
Alors, bonjour, je suis Rico d'Alvarez, donc je suis net artiste. En fait, j'utilise le code informatique pour créer des œuvres d'art, pour faire simple. Sinon aussi, au niveau de la culture libre, j'étais aussi un des fondateurs de l'association Musique Libre, qui défend la musique sous licence libre, toujours d'ailleurs, de nos jours. Voilà.
Alors, on va commencer à parler donc de l'histoire de la culture libre. Je rappelle au public ici présent que si vous avez des questions, on a un micro qui vous est ouvert. Par contre, il faudra le dire, parce que si jamais vous avez une question, nous, on peut l'entendre, mais nos auditeurs et ceux qui écouteront plus tard en podcast l'émission de ce soir, eux n'entendront pas. Donc il faudra qu'on vous passe le micro. Je propose qu'on commence par un petit historique des licences. Donc je te laisse la parole, Cédric.
Alors avant de parler de licence, il faut parler de l'histoire de l'art. De l'histoire de l'art, mais pas basée sur ce qu'est une œuvre d'art ou quoi que ce soit, mais sur la genèse de l'art. On passe vite la préhistoire où là, la question ne se posait pas. On s'amusait sur des murs et ce genre de choses. L'art rupestre était relativement embryonnaire. Et c'est vraiment sous l'Antiquité que les choses commencent à arriver. Où là, les personnes qui faisaient de la création, que ce soit de la peinture, que ce soit de la sculpture ou que ce soit des livres, qu'ils écrivent des livres ou qu'ils écrivent des pièces de théâtre, on ne se posait pas la question de savoir ce qu'est une œuvre. Est-ce qu'une œuvre existe ? Oui, elle existe, elle est là, et elle a un côté utilitariste avant tout. Utilitariste parce qu'il s'agissait de représenter des personnes, de représenter des scènes et ce genre de choses. Arrivé progressivement au Moyen-Âge, on passera vite sur l'époque barbare, où là, les choses appartenaient plus ou moins à tout le monde, et la vie nomade des peuples comme les Francs, les Huns et autres faisait qu'on ne se posait pas vraiment de questions de propriété, c'est un point central de la propriété dans ces éléments-là. La propriété, c'était des choses communes. On parle en droit de res communis, de choses communes. Donc on arrive au Moyen-Âge où on a toutes les personnes qui, telles que les copistes qui reproduisent des livres en se détruisant le dos, les mains et les yeux parce qu'ils font ça dans le froid avec des bougies et ce genre de choses. Et là, on a des livres et on essaye de les reproduire pour diffuser plus ou moins une chose. Il y avait à côté de ça des artistes peintres et autres qui faisaient des portraits, tout comme à l'heure actuelle on fait des selfies, qui dessinaient des personnes et qui, là encore une fois, étaient vus plus comme des... Désolé de le dire comme ça, mais comme des artisans, comme des ouvriers qui créent pour le compte d'autres personnes. Le changement commence à s'opérer en 1350 avec l'arrivée de l'imprimerie, et Gutenberg, évidemment, où là, l'imprimerie révolutionne les choses parce qu'on peut reproduire facilement, encore pas trop à l'époque, mais à grande échelle et pour des coûts beaucoup plus réduits, des livres. Donc, le savoir, la culture peut se diffuser. Reste les enluminures qui ne pouvaient pas forcément être produites, mais on a rapidement trouvé des solutions pour sérigraphier aussi des dessins. Et là, des livres commencent à être produits à grande échelle et à générer de l'argent, à générer des chiffres d'affaires. Se greffe là-dessus, devant cette rupture technologique, une nouvelle économie qui est l'économie de l'édition du livre. L'édition du livre avec les libraires. Les libraires, ce n'est pas vu comme maintenant des personnes qui tiennent une librairie et vendent des livres. À l'époque, c'était vu comme maintenant, on pourrait parler de producteurs. C'était des personnes qui finançaient un travail de création de livres, création de l'écriture et production du livre pour le vendre ensuite et qui maîtrisaient ce genre de choses. Cette économie s'est tellement développée qu'elle a commencé à être régulée, réglementée, en France notamment au travers de privilèges royaux, c'est-à-dire des lettres qui étaient signés du roi ou alors du conseil de conseiller du roi et qui accordaient des privilèges d'exploitation commerciale liés soit à un livre, soit à une ville, voire à une localité où seul le libraire avait le droit de produire des livres et de les vendre sur cet espace géographique-là. Tout ça pousse à créer une économie qui profite avant tout aux libraires. Encore une fois, les créateurs sont vus comme de simples ouvriers, de simples artisans qui créent. Je prends l'exemple sous François Ier, qui a été mécène notamment de Léonard de Vinci, où Léonard de Vinci était, désolé de dire comme ça, mais un petit peu un ouvrier. La Joconde, c'est une commande. La Joconde, c'est un tableau qui lui a été commandé. Il ne l'a jamais livré. Donc, il a été payé, mais il ne l'a jamais livré. Il a toujours gardé avec lui. Mais c'est une commande qu'il a eue de la part de quelqu'un. Je n'ai plus le nom en tête. Et de toute façon, l'histoire de la genèse du tableau est un peu floue. Mais il travaillait que sur commande. Et je prends aussi Michel-Ange, qui a fait la chapelle Sixtine sur commande. Ça lui a pris plusieurs années. Il a été financé, je dis bien le terme, financé par l'Église. Mais c'est un travail qu'il a accompli. C'est lui qui a choisi les motifs, qui a choisi les peintures, qui les a faites, qui a souffert pour les faire. Mais d'une manière ou d'une autre, il a été simplement un vulgaire ouvrier. Je ne dis pas de manière négative, hein, je dis de manière réaliste. On en arrive au siècle des Lumières, où là, beaucoup d'écrivains commencent à se révolter, Beaumarchais en tête, mais Voltaire aussi, et à se dire « mais moi, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de travailler, de gagner de l'argent ». Donc, ces écrivains commencent à changer la donne pour pouvoir être rémunérés pour leur travail de création. L'autre grand changement, après la naissance de l'imprimerie, c'est la Révolution. La Révolution abolit les privilèges dans la nuit du 4 août 1789. Et en 91, on a la première loi sur le droit d'auteur, qui est une loi pas tout à fait embryonnaire, mais presque. Cette loi de 91 est suivie par une autre loi de 93 qui commence à reconnaître le statut de l'auteur et le statut et le travail qu'il fait. Ces lois ont le mérite d'accorder des avantages, des privilèges, mais ce n'est plus des privilèges royaux, maintenant c'est un droit naturel où c'est le seul fait de créer qui fait que le créateur dispose de sa création et peut la commercialiser. La commercialiser de différentes façons. Si c'est un livre, c'est facile avec des reproductions. Pour un tableau, c'est vendre le tableau une fois. Mais vendre le tableau pas à sa valeur vénale, le prix que coûte la toile, le prix que coûte la peinture et le prix du temps travaillé, mais le vendre à une valeur beaucoup plus supérieure qui est représentée par le travail de création et le résultat final. Toutes ces évolutions législatives augmentent au fil du 19e siècle avec la naissance sous l'impulsion de Beaumarchais dès le siècle des Lumières avec la Société des gens de lettres qui est l'équivalent de la SACEM à l'heure actuelle, mais c'était pour les gens de lettres, pour ceux qui écrivaient des livres à l'époque. Donc Beaumarchais l'insolent entre guillemets est quand même quelqu'un d'assez vénal. Et on en arrive progressivement, après la Seconde Guerre mondiale, à la loi du 11 mars 1957, qui est la loi sur les droits d'auteur, qui fonde réellement en France, qui va servir de modèle aussi un petit peu ailleurs, le droit d'auteur. Par rapport à ça, c'est bien de parler de la France, mais il faut parler des autres pays. Les autres pays, ce sont avant tout les pays anglo-saxons. Les pays anglo-saxons, avec bien évidemment le Royaume-Uni, suivi de l'Amérique, des USA, qui créent aussi leur droit d'auteur, mais qui s'appelle du copyright. Pas du droit d'auteur, mais du copyright, du droit de copie. D'où après le copyleft dont on parlera tout à l'heure. Ce copyright a une vision beaucoup plus utilitariste. Et là, la création est importante, mais pas en tant que création. En tant qu'élément de commerce, où là, on crée des œuvres pour pouvoir en faire le commerce de manière plus ou moins intéressante. Là, l'artiste est vraiment vu comme un ouvrier. J'ai entendu, j'ai lu dans des livres qu'en manière de copyright, il y a une mort civile de l'artiste, dans le sens où il n'est pas reconnu en tant que créateur, mais il est reconnu en tant qu'ouvrier qui intervient dans la création, mais qui n'est qu'une petite main, entre guillemets. C'est intéressant cette vision des choses parce qu'après tout, nous, notre vision très philosophique, très siècle des Lumières, où le créateur est au centre de la création et intimement lié à son œuvre, on parle de lien ombilical entre le créateur et son œuvre, c'est pas du tout la même chose en Angleterre et aux États-Unis. C'est juste un élément de commerce comme un autre. Un élément de commerce qui mérite d'être retravaillé. En France, seul le créateur a la maîtrise de sa création. Aux États-Unis, en Angleterre et dans les pays de common law, les choses sont vues différemment. C'est le producteur qui a la mainmise sur la création. On en arrive tranquillement, à partir de 1957, aussi bien en France que dans les pays anglo-saxons, le système français avec le créateur au centre, on parle de droit continental. Et le système anglo-saxon, on parle de droit pour le copyright, on parle de droit anglo-saxon. Dans le système continental, on en arrive tranquillement à la codification de différentes lois qui interviennent à partir de 1957 et au fur et à mesure, plus la jurisprudence, qui aboutissent en janvier 2006 à la codification de ces différents éléments législatifs dans le Code de la propriété intellectuelle, qui à l'heure actuelle la table des lois en ce qui concerne le droit d'auteur. Le droit d'auteur d'un côté et la propriété industrielle, droit des brevets, droit des marques essentiellement de l'autre côté. Aux États-Unis, on arrive aussi à ce genre de résultat avec une vision beaucoup plus utilitariste et au niveau mondial, à une harmonisation plus ou moins forcée, plus ou moins habile entre la vision continentale et la vision anglo-saxonne de la création intellectuelle au travers, dès la fin du 19e siècle, avec la Convention de Berne et d'autres conventions qui sont intervenues entre-temps, une harmonisation internationale. Ce qui nous intéresse dedans, c'est de voir, dans ces explications, c'est de voir que là, on place avant tout l'auteur au centre du travail et l'auteur est reconnu plus ou moins comme le propriétaire. En France, dans la vision continentale, l'auteur est le seul propriétaire de sa création. Il a créé, donc il en est le propriétaire. Il a la maîtrise de la chose, la maîtrise pleine et entière. Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait au 19e siècle que la propriété, c'est le vol. C'était pas un anarchiste. C'est ça, c'est exactement, c'est Proudhon. Proudhon a dit la propriété, c'est le vol. On peut penser ce qu'on veut, mais je trouve ça assez intéressant, au moins d'un point de vue philosophique. On en arrive aussi à dire, basé sur Proudhon, que la propriété artistique, c'est le vol. Où là, c'est bien d'avoir cette vision très centrée sur l'auteur, mais il peut être intéressant également d'avoir une vision plus centrée sur le bienfait apporté à la création. Au fil des évolutions historiques et législatives, au départ, l'auteur avait un droit de propriété sur sa création de 14 ans. Surtout en matière de copyright. En France, ça se passait un petit peu différemment, mais je prends le copyright parce que là, c'est intéressant. L'auteur avait un droit de propriété de 14 ans renouvelable une fois, à condition de dépôt. Et en passé cette période de 14 ans, ou ce renouvellement qui montait à 28 ans, l'œuvre intégrait le domaine public. Elle était la propriété de tous. C'était intéressant au départ pour les livres. Les livres, si le livre était commercialisé et rencontrait son public, donc avec un succès commercial, soit le libraire, soit l'écrivain, l'auteur du livre, parce que si c'est une encyclopédie, c'est aussi une œuvre de l'esprit, méritait rémunération et pouvait prolonger cette rémunération sous condition. Et au fil des évolutions, on en est arrivé à ce que l'œuvre soit la propriété exclusive de son auteur toute sa vie durant et 70 ans après sa mort. 70 ans après sa mort. C'est quand même assez impressionnant de se dire que l'œuvre qui a été créée par un auteur profite à ses enfants, à ses petits-enfants et maintenant à ses arrière-petits-enfants. C'est très intéressant pour certains héritiers, je pense notamment à la fille de Brassens, qui, sous couvert de faire respecter la mémoire de son père, agit souvent pour empêcher certaines créations qui pourraient être basées sur ces chansons.
Pierre Augori, Joestar, par exemple.
Peut-être, oui, exemple. Il y a eu un procès. Donc, c'est important de voir ça. C'est intéressant de voir cette réservation, cette exclusion où, en fait, il y a beaucoup d'artistes qui se disent « Mais moi, je crée parce que j'aime créer, mais j'aimerais que ma création profite aux autres, d'une manière ou d'une autre. Le fait de profiter fait qu'il y a certains qui se sont élevés contre cette appropriation, cette réserve, cette exclusivité qui fait que l'œuvre n'est pas pour son auteur, mais devrait être pour son public. Ça s'est né dans les années 80, 70, même avec la naissance du concept du copyleft. Le copyleft, c'est pas l'inverse, c'est pas l'antithèse, mais c'est le corollaire du copyright, on en reparlera tout à l'heure. Et dans les années 80, Richard Stallman, un programmeur informatique, selon la légende, il avait du mal à accéder au logiciel de son imprimante pour interfacer son imprimante avec son ordinateur. Et dans le début des années 80, il commence à lancer le concept du logiciel libre. Ça prend forme au travers d'une fondation, la Free Software Foundation aux États-Unis. Ça marche tellement bien que une communauté se développe, une communauté de libristes, de personnes qui pratiquent le logiciel libre se développe et on en vient à créer des licences fin des années 80, la première licence GNU/GPL 89, où là, pas encore pour les œuvres, mais pour les logiciels. Un logiciel, ok, c'est une œuvre en droit français, mais on va dire que c'est une œuvre contrariée. Richard Stallman crée des licences GNU/GPL. GNU, c'est un acronyme récursif pour GNU is not Unix. Ça, c'est les informaticiens qui s'amusent avec ce genre de choses. J'en vois deux là qui rigolent. GNU is not Unix et GPL pour General Public License, licence publique générale. C'est intéressant, c'est une licence, donc c'est une autorisation. Elle est générale, donc elle s'applique dans tous les cas, sauf exception et générale, le terme est un petit peu galvaudé. Et public, c'est-à-dire que c'est à destination du public, et c'est quelque chose qui est diffusé de manière publique et à destination du public. Il faut comprendre public dans différentes acceptions. Ceci est fait, et les logiciels libres se développent bon an, mal an, sans trop de problèmes, et ne sont pas là, comme certains le pensaient au départ, là pour tuer l'industrie du logiciel propriétaire, tel que Adobe, tel que Microsoft, tel que Apple et ce genre de choses, mais viennent en parallèle, viennent apporter certaines alternatives. Certaines alternatives que le logiciel propriétaire, qui est commercialisé, ne fait pas forcément. Je prends LibreOffice, par exemple, ou OpenOffice, qui sont des solutions plus ou moins libres et qui permettent de faire du traitement de texte sans avoir à acheter 100 et quelques euros un Microsoft Office Word. Et qui fonctionnent en soi très bien, qui offrent les mêmes fonctionnalités, à la seule limite que l'interface est moins ergonomique, elle est moins jolie, elle est moins visuelle que Microsoft Office, par exemple.
C'est de moins en moins vrai, ça.
C'est exactement de moins en moins vrai. Ils sont bien montés au niveau des standards actuels. Donc, quand je dis ça, mais peu importe l'interface, ce qui compte, c'est l'outil. Si on a une voiture qui va vite, si on fait de la compétition, on n'a pas besoin d'avoir la plus jolie voiture pour aller le plus vite possible. Et dans ce droit fil des logiciels libres, on se dit, bah, c'est bien qu'il y ait du logiciel, mais pour le reste de l'art, comment qu'on fait ? Comment qu'on fait ? Ben, au départ, on ne fait pas. On ne fait pas parce qu'il n'y a rien qui existe. Donc, il y a des artistes qui créent des choses et qui les mettent à libre disposition du public. Cette libre mise à disposition augmente avec l'arrivée d'Internet. L'Internet grand public, à partir des années du milieu des années 90, fait que là, on peut diffuser en masse des œuvres soit numérisées, soit nativement numériques, pour le meilleur et pour le pire, sachant pas forcément ce que font les utilisateurs, ceux qui récupèrent les œuvres derrière. Et au milieu de tout ça, il y a un petit informaticien qui s'appelle Eldred, j'ai plus son prénom en tête, qui est aux États-Unis, qui veut créer une bibliothèque en ligne regroupant un maximum d'œuvres qui sont à libre disposition du public. Alors il se dit, aux États-Unis, sous l'empire du copyright, je peux le faire, mais pour des œuvres qui vont jusqu'en 1923, là où une réglementation est venue bloquer ce système-là. En dehors de ça, tout ce qui vient après 1923, impossibilité de le mettre en ligne. Pourquoi ? Parce que c'est encore protégé par le droit d'auteur. Ça n'a pas intégré le domaine public. Donc, il essaye de trouver une solution, il n'en trouve pas. Il essaye d'invoquer l'inconstitutionnalité de cette loi devant la Constitution américaine auprès des tribunaux. Et l'affaire va tellement loin que ça monte jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême, à 7 juges contre 2, dit non. Cette loi n'est pas inconstitutionnelle. Il y a une réservation des droits d'auteur au profit soit de l'auteur, soit du producteur pour un gain financier qui est compréhensible. Désolé, hein, mais il faut être aussi réaliste. Hein. Il y a des auteurs qui ont le droit de manger. Mais 70 ans après la mort, l'auteur qui a créé la chanson, oui, il a le droit de manger, mais ça fait longtemps qu'il n'a plus besoin de manger, lui. Désolé. Il se fait aider par un avocat qui est aussi professeur de droit, qui s'appelle Lawrence Lessig, et ils perdent le procès. Ils perdent le procès jusqu'à la Cour suprême. Et Lessig commence à penser à ces choses-là, à se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une alternative ? Mêler le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire avoir d'un côté promouvoir l'auteur et reconnaître l'auteur en tant que créateur de son œuvre, mais permettre la mise à disposition de son œuvre auprès du public pour favoriser la création, pour favoriser sa diffusion. Après tout, il y a des artistes qui gagnent leur vie soit au travers d'un travail qu'ils font à côté, soit plutôt qu'en vendant leurs CD, en faisant des concerts. Donc, il essaye de se dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution ? Et il voit, il découvre les logiciels libres, enfin il connaissait, mais il se dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire le pendant logiciel libre, mais plutôt appliquer, non pas au logiciel, mais aux autres types de création ? Et il en vient à fonder la fondation Creative Commons. Creative Commons, hein, si on le traduit en français, c'est simple, c'est création commune. Tiens, création commune, je vous ai parlé il y a quelques minutes des res communis, des choses communes. Eh ben on en vient là. Ce sont non pas des choses en tant que telles, parce que le terme de choses est un petit peu trop flou, mais des œuvres, des créations communes, et à les mettre à libre disposition du public. Parallèlement, un petit peu avant, en Europe, il y a aussi un mouvement qui s'est lancé, qui est le mouvement Art Libre, qui a conduit à une licence qui s'appelle la licence Art Libre. J'en parle un petit peu, mais pas trop, parce que cette licence n'est pas trop connue, et la licence Creative Commons a eu la vertu de se diffuser dans le monde entier et occupe 95% à l'heure actuelle du plateau. Et cette culture du libre se diffuse et se développe tranquillement, et on en vient, 2006-2008, à diffuser le libre dans les données. les données, à l'heure actuelle, c'est vu comme l'or noir de l'Internet. Et on se dit, mais pourquoi on ne pourrait pas mettre à libre disposition des données ? Ça aboutit au mouvement Open Data, données ouvertes. Alors le terme ouvert est un petit peu mal employé dans la traduction française, mais on peut dire ça comme ça. C'est juste le pendant par rapport au logiciel, où pour les logiciels, on parle d'open source, code informatique ouvert. Pour les données, on parle de données ouvertes, d'open data. Et on en vient tellement loin à l'heure actuelle que depuis 2010 et un petit peu après, cette notion de libre, j'en finirai là, s'est développée aussi sur les hardware. Non pas sur les logiciels, mais sur tout ce qui est le matériel physique, sur tout ce qui est carte mère et ce genre de choses. Alors, ce n'est pas les cartes mères qu'on met à libre disposition du public, c'est les plans qui sont mis à libre disposition du public en vue de pouvoir être acquises et retravaillées. Ça ne vous parle pas trop, mais si vous regardez l'actualité à l'heure actuelle, surtout en matière d'imprimante 3D, avec les mains robotiques qui sont faites. Si on mêle l'imprimante 3D aux mains robotiques avec les Fab Labs, pour ceux qui connaissent, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu une main ou qui n'ont pas l'usage de leurs mains, qui peuvent, à moindre coût, concevoir, grâce à ces logiciels libres, grâce à ces hardware qui sont aussi à libre disposition, leurs mains mécaniques, des mains mécaniques alternatives, à moindre coût, et à concevoir ces mains-là, en partie avec de l'impression 3D. J'en ai fini, je vous laisse la main.
Merci beaucoup. Donc on a vu en fait que le droit d'auteur dans l'histoire de l'humanité n'est pas si vieux que ça, c'est même plutôt récent à l'échelle de 300 ans.
18e siècle, autant en France que dans les pays anglo-saxons.
Un peu plus ancien dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas...
Ouais, c'est embryonnaire avec le statut of man, c'est embryonnaire fin 17e.
Et on en vient toujours à, j'ai l'impression qu'on recrée un peu l'histoire, c'est que l'arrivée de l'imprimerie et donc la possibilité de dupliquer des textes à moindre coût et dans des proportions jamais vues jusque-là a favorisé l'arrivée, effectivement, l'émergence de contestation des auteurs, mais aussi des libraires qui voulaient effectivement s'assurer un certain revenu. Est-ce qu'on n'en est pas, il n'est pas arrivé la même chose avec l'avènement d'Internet à la fin des années 90 et justement aujourd'hui avec l'arrivée de l'impression 3D, de la possibilité à moindre coût de dupliquer, de fabriquer des objets.
Il faut quand même voir qu'une création intellectuelle, c'est un bien non rival. C'est un bien non rival, ça veut dire que chacun peut écouter dans le monde entier ou à deux points totalement différents du monde entier la même chanson à la même seconde. Chacun peut écouter une chanson de Rihanna, que ça lui plaise ou non, en même temps. Donc la consommation d'une œuvre, d'une création intellectuelle, d'une œuvre de l'esprit, n'empêche pas quelqu'un d'autre de la consommer au même moment. Écouter une chanson, c'est la consommer. Désolé, hein, c'est un petit peu cru, mais c'est un petit peu ça. Internet a permis une libre diffusion, de maximiser la diffusion pour le meilleur et pour le pire. Internet a été le meilleur vecteur de contrefaçon. Mais la contrefaçon, quand l'imprimerie est née, ça existait déjà à l'époque. Hein. Les imprimeries sauvages ont aussi existé. L'imprimante, hein, je faisais le lapsus tout à l'heure, mais l'imprimante permet de dupliquer avec un certain temps un livre en quelques minutes ou en quelques heures. Internet a permis de maximiser la diffusion de la culture, à tel point, à l'heure actuelle, qu'on en arrive à pouvoir uploader, sans autorisation préalable, des livres, des musiques, des films et ce genre de choses, et à les regarder, à les écouter, à les lire, sans avoir à rien payer. Ce qui est, à contrario, une perte pour certains auteurs. Faut quand même que l'auteur soit rémunéré pour son travail de création. Il y en a qui font que ça. Alors vous allez me dire, il y a des auteurs qui sont célèbres et qui gagnent des millions, des milliers, voire des millions d'euros ou de dollars. Oui, il y en a, mais c'est une minorité.
Et justement, on parle beaucoup des... Enfin, on a beaucoup parlé pendant tous les débats, notamment sur la loi Adopi ou ce genre de choses. Effectivement, on essayait de nous mettre l'auteur au cœur de tout ça, mais est-ce qu'avant l'auteur, notamment pour la musique et pour le cinéma et la télévision, il n'y a pas d'abord le producteur ? Est-ce que c'est pas justement est-ce que notre système actuel ne favorise pas plutôt le producteur ?
Non, parce que, enfin, pour moi, hein, je me trompe peut-être, mais le producteur est un intervenant dans la création. Ça peut être vu comme quelqu'un qui veut gagner des millions et des millions, mais s'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de création ou de diffusion de la création. Parce que à l'heure actuelle, faire un film, je pense notamment récemment au film français Chocolat avec Omar Sy, quand on voit les décors, quand on voit les costumes, quand on voit le temps de préparation, ce n'est pas un film qui a coûté 100 000 euros. C'est un film qui a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc le producteur est un intervenant dans la création. On parle de droit voisin. Donc c'est un des éléments de la création. Il y a le créateur et il y a lui qui est là pour financer le travail de création. Créer peindre un tableau en quelques minutes ou en quelques heures, ça va, ça ne coûte pas cher. Mais il y a certaines créations qui nécessitent de l'argent. Les producteurs ont droit aussi à rémunération. Après, il y a peut-être de l'abus. Il y a sûrement de l'abus dans certains cas. Quand il y a des universitaires qui écrivent des livres et qui vendent ces livres entre 15 et 100 euros, mais qui ne récupèrent que 0,5 ou 1% sur un livre, quand Amélie Nothomb, qui est une superstar et qui vend énormément de livres, elle peut avoir, j'en ai aucune idée, mais au moins 10% sur la vente d'un livre, là, il y a une certaine dichotomie entre différents types de créateurs. Mais derrière, elle gagne sa vie et tant mieux pour elle. Un universitaire qui écrit son livre, quelle que soit la matière, il le fait pas pour gagner de l'argent. Il le fait plus pour la reconnaissance intellectuelle. Internet permet cette libre diffusion, pour le meilleur et pour le pire. Les producteurs, ben, ils prennent des risques financiers. Le film Chocolat a plusieurs dizaines de millions d'euros, excusez-moi, mais c'est un gros risque financier. Donc ça mérite rémunération, la prise de risque mérite rémunération. Donc après, quand on voit des producteurs qui se plaignent que leur film, dès qu'il est sorti, il est pris en screener et il est diffusé sur Internet, et ben ça fait un manque à gagner. Mais ce manque à gagner, il n'est pas forcément pour le producteur qui va mettre l'argent dans ses poches et qui va après se construire une belle piscine. Il est aussi pour financer le travail de création. Une partie de l'argent qui va au producteur sert à être réinjecté dans la production au profit d'autres films, au profit d'autres créations. Donc, je n'ai pas de parti pris à ce niveau-là. J'essaye d'être le plus réaliste possible. Ils méritent rémunération et ils prennent des risques financiers. Et il y a peu de films qui ont beaucoup de succès. Ces films-là ont un succès retentissant, mais une grosse partie de l'argent sert à financer d'autres films. Maintenant, ceux qui pratiquent le libre, la libriste en tant que telle, ont une autre vision des choses. Ils font ça peut-être pour le bien de la communauté, mais ils font ça aussi dans une vision de promotion pour eux-mêmes. Là, au travers de ma chanson que je mets à libre disposition du public sous licence Creative Commons, je me fais connaître. Peut-être que plus tard, je pourrais mettre en vente mes deux gens que ça. Parce qu'après tout, à mon sens, d'aller sur scène, d'aller face à un public, et pas de faire un album pour pouvoir le vendre comme ça et rester tranquillement dans son canapé après.
Et justement, je rebondis sur l'histoire des auteurs. Il y a beaucoup de contestations dans le monde libriste qui est fait, enfin de musiciens qui se plaignent notamment de la SACEM et qui préfèrent choisir justement des licences libres plutôt que de confier leur œuvre à une œuvre, à une société de gestion collective des droits comme la SACEM.
Les sociétés de gestion collective sont utiles. Il y a des dérives. Il y a eu des dérives avec la SACEM et avec d'autres sociétés. Je pense aussi à une société de gestion collective qu'on ne connaît pas trop, mais qui œuvre beaucoup, qui fait beaucoup de travail et qui n'a jamais fait de dérive, pour le coup, qui s'appelle la SAIF, Société des auteurs d'images fixes. Donc, il y en a une vingtaine en France. On cite toujours la SACEM, mais c'est au détriment des 19 autres environ qui existent et qui sont une interface entre l'auteur et le public. Parce que l'auteur n'a pas pour but de maîtriser, pour mission de maîtriser l'exploitation de sa création. Prenons un chanteur ou une chanteuse, ben prenons Zazie par exemple en France. Vu le nombre d'albums qu'elle a sortis sous son nom et de chansons qu'elle a écrites ou composées ou autres ou participées à la création de la chanson, c'est impossible qu'elle puisse elle-même gérer les droits liés à ses créations. Qu'elle fait ses chansons qu'elle a chantées ou ses chansons qu'elle a écrites et composées pour d'autres. La SACEM intervient en tant qu'intermédiaire à ce niveau-là pour dire ben, « Moi, SACEM, je gère la commercialisation des chansons de Zazie En échange, je reçois un pourcentage qui est de l'ordre de 10%. Je n'ai pas les chiffres en tête parce que je ne suis pas le plus grand spécialiste des sociétés de gestion collective. Et le reste de l'argent est redistribué. Redistribué à Zazie, mais redistribué aux autres chanteurs et artistes. La SACEM sert à faire cette interface-là entre le public et l'auteur. La SACEM, quand on lui cède des droits, ces droits, on devient sociétaire de la SACEM. Et à partir de là, c'est la SACEM qui passe avant tout. Les libristes choisissent un mode de diffusion différent. En choisissant une licence Creative Commons ou autre, hein, ça peut être une licence art libre, musique, une licence sampling, peu importe le type de licence, ils disent « je ne me préoccupe pas de la gestion collective de mes œuvres. Je ne me préoccupe pas de la gestion et de la gestion des droits. Préalablement, en publiant et en mettant à disposition ma création sous licence libre, je dis « vous, utilisateurs, vous pouvez accéder, consommer ma chanson sous telle et telle condition et réserve. » Le logo copyright le sait dans un cercle où, qui est utilisé en France, mais qui n'a pas de fondement légal en France. C'est juste pour montrer tout droit réservé. C'est ça le logo copyright. Il y a aussi le R dans un cercle et ce genre de choses. Il y en a beaucoup qui mettent tout droit réservé à la place du logo. Mais en France, s'il n'a pas de valeur juridique, il a une valeur symbolique. En France, elle est internationale. Eh ben, ceux qui utilisent une licence Creative Commons, par exemple, ils disent certains droits réservés. Moi, auteur, je mets à libre disposition du public ma création sous telle et telle condition et parallèlement, en corollaire, sous telle et telle limite. Je prends la licence la plus simple pour la Creative Commons, la licence by. By, ça veut dire fait par la paternité. Je suis l'auteur, je suis le père de la création, donc quand on réutilisera ma création, je veux qu'on cite mon nom. Mais je ne me soucie pas de la gestion des droits. Pourquoi ? Parce que les droits sont là, ils existent, j'affirme ma création, mais j'affirme mon pouvoir sur ma création aussi, c'est ça, c'est très philosophique, le pouvoir que j'ai de contrôler la création en disant « je ne la contrôle pas, je la mets à libre diffusion du public ».
Et alors, on a vu qu'il y avait des licences libres. Tu nous as parlé des licences libres bon, qui étaient à l'origine créées par, impulsées par Richard Stallman. On a vu qu'il y avait de toute façon la GPL qui a été elle-même qui a donné naissance à tout un tas d'une galaxie de licences libres. Exactement. On peut citer par exemple la MPL, la Mozilla Public License, qui est utilisée par la fondation Mozilla, qui est... pour gérer des projets comme Mozilla Firefox. Il y en a tout un tas. Il y a les licences BSD.
Berkeley Software Distribution.
Ouais. Enfin, BSD, ce n'est pas libre comme licence.
C'est une licence partiellement libre.
C'est open source. Ouais. Voilà.
Mais dans la mesure où on peut ne pas citer l'auteur et l'utiliser commercialement, le code, l'intégrer dans n'importe quoi, même avec un copyright... C'est pas du tout libre.
Du point de vue informatique, ça reste une licence open source.
Oui, mais la distinction, enfin, voilà, on verra ça peut-être tout à l'heure plus précisément.
Mais et en fait, j'irai un peu plus loin, c'est-à-dire que maintenant, on a des licences d'utilisation pour, par exemple, des process autour de l'agriculture, parce qu'on a maintenant des gens issus de l'agriculture qui ont décidé qu'ils avaient envie de se passer. Alors, je donne un exemple de multinationales pour pouvoir acheter des engrais ou des pesticides et qui développent d'autres processus et qui les publient sous des licences libres, mais adaptées au monde agricole, par exemple, ou alors...
Exactement. Maintenant, cette culture est libre, avec un L majuscule et qu'on peut mettre aussi entre guillemets, fait que le mouvement du libre se diffuse dans d'autres domaines liés à la création. Quoique, ces processus en matière de commercialisation et de diffusion dans le domaine de l'agriculture, ça pourrait être vu, je vais faire grincer des dents, mais ce n'est pas grave. C'est peut-être des process qui sont brevetables, mais ça va faire grincer des dents. Mais on pourrait imaginer ce genre de choses. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de dire, j'en ai marre de cette culture du fric à tout va, et je cherche une méthode alternative, et peut-être plus simple. À une époque où on a une agrégation de droits sur droits et un empirisme de droits, où les sociétés de gestion collective sont là, elles, pour essayer de faire l'interface, mais malgré tout, ça grince des dents de tous les côtés, on en arrive à des process alternatifs où on cherche peut-être des circuits alternatifs, voire des circuits courts.
Et alors, je vais rebondir là-dessus. Justement, toi, Rico, quel est là-dedans, toi, ton processus? Pourquoi avoir choisi de la musique libre au départ et maintenant la création libre, au sens large du terme?
Sur un parcours, en fait, c'est empirique. Au départ, c'est la découverte du système Linux, il y a une vingtaine d'années, en 98, pour être précis. Et de la découverte aussi de la communauté qui y a derrière et de cette licence publique générale que j'ai pris la peine de lire et qui m'a tout de suite parlé en termes philosophiques. Bon, il s'avère que je faisais des études de philo à l'époque, donc ça m'a parlé d'autant plus. Lorsque j'ai découvert cette philosophie de partage, étant musicien et étant confronté aux prémices de ce qui allait donner toutes ces batailles juridiques autour du téléchargement, notamment, puisqu'on était vraiment aux alentours des débuts de Napster, de ces affaires qui couvaient, qui n'étaient pas encore totalement lancées, les premières plateformes de peer-to-peer, voilà, donc l'accession au téléchargement. Et en tant que musicien, moi, je trouvais que c'était une opportunité excellente de pouvoir diffuser mes œuvres sur ce nouveau média qu'est Internet. Et de fil en aiguille, en regardant mon calendrier, je me suis rendu compte qu'il y a des rencontres mondiales du logiciel libre à Bordeaux. Et suite à une conférence de Richard Stallman, je suis venu tout simplement lui poser la question, pourquoi ne pas faire une licence qui pourrait s'appliquer à la musique? Donc la première réponse de Stallman, bon, il faut s'imaginer que quelqu'un avec les cheveux un peu longs, bedonnant, avec une flûte dans la poche, pieds nus, un vrai geek au sens noble du terme, hein. C'est quand même Saint Ignatius, hein, le patron du logiciel libre. Donc ce grand homme m'a répondu tout simplement « Ah, c'est pas pareil !» La musique libre, ouais, d'accord, mais effectivement, ça posait déjà un problème en termes de... Un programmeur, c'est quelqu'un qui en général gagne plutôt bien sa vie, donc aller mettre du code source en libre, il le fait à temps perdu et ça ne va pas lui poser des problèmes pour survivre. Un musicien, il n'en est pas tout à fait de même. Hein. Mais bon, on verra qu'il en est, peut-être même si c'est différent, les conditions classiques d'exercice de la musique ne vont pas être forcément rémunératrices pour l'écrasante majorité des musiciens. Donc déjà, à la base, le système était faussé. On verra en détail pourquoi. Donc, suite à cette rencontre, Stallman m'a donné l'adresse mail de personnes qui travaillaient, qui étaient de l'université de Berkeley et qui travaillaient sur un projet de licence pour la musique, la Free Music Public License, donc qui était justement à l'époque adoubé par la Free Software Foundation, etc. Et effectivement, la personne qui travaillait comme juriste, c'était Laurence Lessig, qui devait normalement nous aider à finaliser le texte de la licence. Bon, ça s'avère qu'il nous a lâché par la suite pour créer Creative Commons, avec le succès qu'on lui connaît. D'ailleurs, on pourra que l'en féliciter. Mais voilà, donc le processus s'est installé comme ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu l'envie de relayer la parole de la musique libre et de cette licence-là en créant un premier site pour expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Puis aussi pour recenser les premiers artistes que je pouvais trouver en glanant sur Internet et qui utilisaient des licences libres. Il y avait déjà une première licence qui a été créée par un groupe anglais qui s'appelait Esimonix et qui était une des premières embryons de licence. Ils avaient rédigé ça sans vraiment l'aide d'un juriste, mais ça voulait bien dire la même chose qu'une licence libre pour le logiciel, c'est-à-dire qu'on pouvait partager la musique, on pouvait la télécharger librement et on pouvait en faire la promotion. Voilà, c'était l'idée, c'est un peu de confier au public la promotion de l'œuvre plutôt qu'à un producteur, justement. L'idée, c'était de dire que le public pouvait être partie prenante de la création et avoir une fonction un petit peu de dissémination, de pollinisation, qui permettait à des œuvres qui, de toute façon, pour la plupart, seraient restées inconnues du grand public, de gagner un peu plus de leur popularité, on va dire. Mais le modèle économique de la musique libre, si, c'est pas quelque chose, effectivement, qui était une grande préoccupation. L'idée, c'était surtout de pouvoir s'affranchir d'un système qui était... particulièrement fermé, le système de l'industrie de la musique, avec une porte d'entrée toute petite et beaucoup de gens devant la porte ne sachant quoi faire de leurs œuvres. Donc quel dommage finalement d'avoir une société de gestion collective dans laquelle il y a plus de 300 000 membres Et parmi ses membres, bon, il y a des morts et des vivants. Hein. Tino Rossi est membre de la SACEM. Hein. Dans ce nombre d'artistes, si on regardait un petit peu les chiffres que la SACEM publie elle-même, hein, on constatait qu'en fait, 3% d'entre eux touchaient plus de 10 000 euros de droits d'auteur par an. Et ils étaient une dizaine de milliers à toucher entre 1 000 et 10 000 euros à peu près de droits d'auteur. Donc, quelque chose d'extrêmement faible, c'est-à-dire quelque chose, c'est un système qui fonctionne sur à peu près 10% des gens, dont une frange infime, 3% de l'ensemble, dans ces 10%, alors eux sont extrêmement bankable, comme on dit. Voilà, donc je parlais de Zazie, effectivement. Bon, après, je ne sais pas si elle a écrit ses... Enfin, si elle écrit ses textes, j'ai un peu peur pour elle, mais bon.
Zazie, auteur, compositeur, interprète.
Ouais. Donc, non, mais c'était le terme d'œuvre aussi pour Rihanna tout à l'heure qui m'a un petit peu interpellé. Œuvre de l'esprit. Pour...
Alors, si je peux.
Œuvre faire... de l'industrie, je veux bien. Œuvre de l'esprit.
Alors, si je peux faire une aparté en droit français, désolé de le dire, hein, mais les films X sont considérés oui, comme des œuvres de l'esprit. Hein. Désolé pour le meilleur et pour le pire.
Effectivement. Donc, à partir de cette période-là, donc là, on se situe au début des années 2000, donc j'ai créé un premier site pour relier les infos. Et puis, petit à petit, j'ai été rejoint par d'autres activistes et on a créé une association, l'association Musique Libre. Et on a décidé de monter une plateforme pour rassembler en fait toute cette musique et donner accès au public librement et légalement à tous ces titres. Donc, progressivement, l'association, la plateforme de l'association finit par son apogée. Il y avait 50 000 titres, à peu près 4 300 artistes, 43 nationalités, pour vous dire à peu près la manière dont ça a évolué. Puis, on est parti sur des projets comme de créer des bornes dans les médiathèques, etc. Donc, c'est dans ce contexte-là... que finalement, on a été amené aussi à réfléchir sur la place de la culture libre, puisque bon, même si on s'occupait de musique, on avait aussi beaucoup de relations avec d'autres acteurs de la culture libre, avec les gens de la licence art libre notamment. Et voilà, donc on crée aussi des événements, des concerts, des conférences pour sensibiliser le grand public à ces questions un petit peu ardues finalement, parce que c'est du... C'est juridique et c'est sûr qu'au niveau pour rendre ça sexy, bon, tu l'as très bien fait, hein. Bravo. Mais c'est pas facile à rendre sexy et compréhensible. Voilà, nous, ce qui nous intéressait surtout, c'est la question philosophique. Hein. C'est vraiment, je fais de l'art. Quel est le statut de ma création? Est-ce que je considère que ça m'appartient et dans ce cas-là, je vais mettre une restriction de diffusion et puis bah, du coup ça va peut-être pas se diffuser ou jamais, ou alors est-ce que je suis maître aussi à bord et je dis bon ben voilà, si vous me citez, si vous n'utilisez pas ça de manière commerciale par exemple, bah, je vais vous autoriser à pouvoir télécharger librement ma musique, il n'y a pas de souci du moment que vous respectez la licence. On s'est retrouvé confronté progressivement à des problèmes juridiques, c'est-à-dire qu'on a des gens qui faisaient de la musique libre qui se retrouvaient diffusés, par exemple, à la télé. On a eu un cas d'une musique qui a été diffusée sur Canal+, pendant les guignols de l'info, donc en prime time, tout ça. Et ni l'auteur a été cité, il y avait une utilisation commerciale, c'est pas tant, hein, puisque là, sur Canal+, on peut dire que le financement publicitaire, surtout vers 20h, est assez important. Et en plus de ça, c'est un extrait de l'œuvre, alors que la licence disait qu'il fallait pas modifier l'œuvre, donc qu'elle soit diffusée dans sa totalité. Donc il a fallu contacter le service juridique de Canal+, pour leur faire comprendre que cet artiste, bah, déjà il fallait être un petit peu poli et le citer au moins, et pour récupérer les droits d'auteur. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en gestion individuelle des droits d'auteur qu'on ne peut pas percevoir des droits d'auteur. En l'occurrence, là, il s'agissait de ne pas les verser à la SACEM, mais de les verser directement au musicien, sur son compte. Donc, après quelques tergiversations, une petite lettre de mise en demeure envoyée par notre avocat de l'époque, Olivier Ramoul, le service juridique a fini par céder, donc l'artiste s'est retrouvé gratifié de 10 000 euros, comme ça, sur son compte, ou quelque chose comme ça, enfin... Donc, c'est possible, ça. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Et donc, effectivement, il serait plutôt plus simple d'aller voir la SACEM et pour qu'elle fasse ça gentiment, en moyennant ces 10 à 15% de frais de fonctionnement. Le problème étant, c'est que la SACEM impose de déposer toutes ses œuvres chez eux. On n'a pas le droit, en fait, de donner un statut différent juridiquement parlant à une œuvre. Alors, une œuvre, je la donne à tout le monde, je demande simplement comme site, et une autre, je la mets sous copyright, vraiment, je la cadenasse parce que je veux... J'ai dans l'idée que ça va me rapporter beaucoup d'argent. Parce que, en même temps, c'est complètement fantasmatique. Tout ça, on ne peut pas prévoir le destin d'une œuvre. Hein. C'est le public qui va décider, en général, hein, dans ces cas-là. Bon, après, il y a des moyens de forcer la main au public hein, en le tabassant toute la journée avec le même titre. Hein. Ça, c'est facile aussi. Et ça marche, hein. La preuve, puisque ce qui est au top 50, c'est rarement des choses qui ne passent pas à la radio, à la télé et sur tous les médias en boucle. Ça, c'est le problème de la diffusion. Et d'ailleurs, même à la SACEM, ils sont sensibles à ce problème-là. Je me souviens avoir discuté avec Laurent Petit-Girard là-dessus, qui est le président de la SACEM, qui me disait qu'effectivement, il y a vraiment un problème. Les diffuseurs, en fait, brouillent les pistes. Parce que le fait de diffuser tout le temps les mêmes titres, et à l'heure actuelle, on a une vraie réduction comme peau de chagrin de la diversité. Dans une heure de radio, dans les années 80, vous aviez à peu près, toute bande FM confondue, quelque chose comme 120 titres différents. Maintenant, on atteint péniblement les 10. Quoi. Donc, on arrive à des situations qui sont assez problématiques. Le grand public n'a accès qu'à 0,00001% des œuvres produites, alors qu'on n'a jamais eu autant de productions que depuis les années 90, en gros, avec l'apparition des home studios et le fait que des musiciens puissent produire leur musique, l'enregistrer sans passer par un studio d'enregistrement qui coûtait extrêmement cher et qui justifiait à l'époque les coûts de production et le fait que c'était pas tout le monde qui pouvait enregistrer un disque. À partir de ce moment-là, et suite à ça, avec l'arrivée du net et la possibilité de diffuser les œuvres, ont changé complètement la donne. Quoi. Là, on pouvait vraiment inonder de ses productions, et on peut toujours le faire, tant mieux, la toile. Et faire de l'autopromotion, hein, la plupart du temps. Mais en même temps, dans notre projet Musique Libre, on n'avait pas oublié la possibilité d'avoir des labels. On avait recensé des labels qui utilisaient la musique libre, comme RSR, par exemple, qui est un label qui diffuse la musique libre. Et donc des acteurs qui justement avaient une démarche un peu plus commerciale et qui avaient l'idée de faire progresser économiquement leur petite entreprise ou alors de proposer une sorte de collection d'artistes qui auront été dans laquelle la notion en fait de prescription était là, puisque bon, le label, c'est un prescripteur de musique, avant tout. Donc là, on s'était soucié à ça. Donc sur la plateforme Dogmazic, à l'époque, on accueillait aussi, pas que des artistes individuellement, mais aussi des labels. Donc là, il y a un tissu, d'ailleurs, toujours, hein, qui existe, de gens qui font du travail très sérieux, très pro, et qui font de la musique libre en même temps. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre... La dimension, on va dire, plus industrielle de la musique, c'est-à-dire sa diffusion avec de la publicité, avec du support, etc., et le fait de faire de la musique libre. La différence, effectivement, c'est qu'il n'y a pas derrière la maman SACEM qui va récupérer les sous-sous. Parce que le problème de la SACEM, souvent, d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est qu'ils le disent eux-mêmes, hein, ils défendent les artistes même contre eux-mêmes. Voilà. Un exemple. Quand vous êtes à la SACEM, votre musique peut être utilisée par les catalogues de certains diffuseurs comme les télévisions ou les radios. Elles peuvent piocher ce qu'elles veulent dedans sans vous demander l'autorisation de le faire. Il y a eu quelques petits problèmes avec un groupe qui s'appelle iTone il y a quelques années. Et des fans les avaient alertés en leur disant « Mais votre super morceau là qu'on adore tous, il est passé dans un reportage sur les radars automatiques. C'est catastrophique. » Et effectivement, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le droit d'interdire à la SACEM de permettre à France 2, en l'occurrence, d'utiliser la musique, de leur musique. Donc c'est un engagement un peu faustien, quelque part. C'est-à-dire, je rentre à la SACEM, mais attention, la SACEM me protégera même contre moi. Donc je considère, moi, personnellement, en tant qu'artiste, que je possède un cerveau, que je n'ai pas besoin que quelqu'un utilise une partie de mes facultés intellectuelles. Ensuite, pour ce qui est de ce que je pourrais louper en termes d'opportunités commerciales, ça me tire pas beaucoup de larmes. Parce que justement, je ne pense pas que faire de la musique, c'est autre chose qu'une sorte de pulsion irrépressible. Donc, que je sois rémunéré ou non, je ferai quand même de la musique. Et je pense que c'est ça aussi que la plupart des artistes, quand on peut dire, enfin, ce mot, j'aime pas trop employer artiste, enfin, c'est ce qui est à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire vraiment de ne pas pouvoir faire autrement que de faire ce qu'ils font, de la peinture, de la littérature, etc. Donc la dimension économique, elle se greffe après. Bien sûr que c'est, enfin, je vais pas refuser qu'un de mes morceaux me rapporte de l'argent. C'est pas ça. C'est simplement que c'est pas le principal pour moi. Le principal pour moi, c'est de pouvoir avancer dans ma démarche de création. Voilà. Et après, ce qui est important aussi, c'est de toucher un public. Et ben là, je suis comblé au niveau de l'internet. Il n'y a pas plus facile. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le parcours au niveau de la musique. Pour ce qui est de l'association Musique Libre, j'ai cessé d'y participer depuis déjà 5 ans. Et à l'heure actuelle, je ne pourrais pas trop vous parler de ce qu'ils font. Voilà. En tout cas, c'est un projet sur lequel je me suis énormément investi et je ne regrette absolument pas cette aventure-là.
Alors, juste pour anecdote, c'est arrivé aussi à un autre artiste que l'on connaît bien chez Girol, puisqu'on l'a déjà fait venir en concert, c'est Tsitsimit. Qui est un artiste bordelais.
Oui, je me souviens, on a suivi l'affaire.
Voilà, il a été diffusé, lui, chez Jean-Claude Mermet, deux fois. Et pareil, aucune citation. C'était une chanson sur les patrons, je crois, ou sur les...
Oui, je me souviens très bien de l'affaire, puisque c'est notre avocat qui s'était occupé de faire l'intermédiaire.
Voilà, il est pour info. Tsitsimit avait directement laissé un message sur le répondeur de Jean-Claude Mermet. Et il n'a jamais, lui, eu de réponse. C'est pour ça qu'ensuite, il est passé... Oui, par l'avocat.
Ce qui est un peu dommage de la part de quelqu'un qui se dit activiste. C'est pas à son honneur, en tout cas, cette histoire.
Bon. Et actuellement, tu ne fais pas que de la musique, tu as publié d'autres choses aussi sous licence libre ?
Je travaille sur de l'art numérique. Il y a tout ce que j'ai fait en net art qui est accessible, c'est sous licence art libre. Donc, il y a des milliers de pages, d'œuvres bizarres. Enfin bon, ça serait un peu long de vous expliquer toute la démarche. Des œuvres qui se situent entre 2000 et 2015 à peu près. Hein. C'est toute la période. Voilà. Et sinon, après, j'utilise aussi du logiciel libre parce que je suis actuellement sur le plan plus économique. Je gère une agence web, donc on utilise uniquement des logiciels libres pour créer des sites internet ou des applications réseau.
Alors, si les gens sont intéressés pour justement aller consulter ton énorme bibliothèque de création libre, où est-ce qu'ils peuvent le faire ?
Alors, ils peuvent le faire en se rendant soit sur mon site personnel, donc ricodaalvarez.net. Sinon, sur vnatrc.net. Bon, en général, tout le monde s'en mêle les pinceaux, donc je vous invite plutôt à chercher. Si vous cherchez Rico d'Alvarez sur le net, vous devrez avoir à peu près un certain volume de réponses qui vous guideront dans certains méandres. Il faut garder aussi des choses secrètes. Il y a des pages secrètes qu'on ne trouve pas facilement. Mais des fois, c'est en tapant... je sais pas, moi, effacer les traces de stylo à billes, on tombe en premier sur Google. Mais voilà, parce qu'on travaille aussi sur la perturbation du réseau en utilisant des mots-clés qui s'auto-rafraîchissent. Donc on a constamment un bombardement de méta-tags qui fait que Google n'arrive pas vraiment à nous comprendre. Quoi. Donc c'est un peu le but.
Code que beaucoup de geeks connaissent. Qui permettent souvent sur certains sites internet de débloquer des choses miraculeusement.
Tout à fait.
Mais je pense qu'on va laisser la parole au public si des gens ont des questions. Alors, il y a un micro. Hein. Ah, deux petites secondes. Voilà, ça doit être bon.
J'avais deux petites réflexions à faire, l'une par rapport à vous, là, en tant que dans la démonstration que vous avez faite par rapport à l'évolution du droit. Il y a aussi un fait culturel, c'est aussi le fait que dans les civilisations, notamment par rapport à ce qu'on appelle la japonisation, l'idée c'est de reproduire à l'identique pour arriver à égaler le maître. On voit ça en musique, par exemple, tout ce phénomène des groupes musicaux qui imitent les groupes, par exemple, de hard rock ou des groupes anglo-saxons, à la limite plus proche de l'originel que l'original. Donc on voit des groupes de fans, par exemple, qui ont des badges comme dans les années 70. Les groupes rejouent peut-être à la limite même mieux la musique. Enfin, il y a ce phénomène-là qui est un phénomène japonais d'imitation, d'égaler le maître. Et l'idée de reproduction de l'œuvre à travers les nouvelles technologies, c'est aussi ça. C'est le fait de dire ben, je peux reproduire à l'infini des contenus. Il y a pour moi derrière l'idée, la deuxième idée que je voudrais évoquer, c'est l'histoire de la désacralisation aussi de l'artiste, parce que c'est quand même ça qui est en jeu. Et la SACEM n'a de cesse de dévaluer les licences libres en disant oh, de toute façon, pour ce qu'on y trouve dedans, c'est pas la qualité, c'est pas un gage de qualité, parce que quelque part, ils veulent tous, un jour, s'ils ont du succès, rentrer à la SACEM, etc. Nous, on le voit, hein, en travaillant aussi en bibliothèque, on se rend compte de ça, ce discours qu'il peut y avoir. Or, quand on se rend compte que, par exemple, une encyclopédie libre comme Wikipédia, le discours qu'il y avait sur la légitimité des contenus il y a encore 5 ou 6 ans par rapport à la profession, où les savoirs étaient détenus par des gens qui savaient, on se rend compte que le bien commun, ben, à partir du moment où il est partagé, des compétences, dans la mesure où elles sont validées et complétées, elles valent autant que l'expert en lui-même. C'est un petit peu ça aussi que montre le mouvement des licences libres. Et puis, justement, comme vous disiez dans votre présentation, c'est qu'il y a une accélération de cette désacralisation, mais au profit du bien commun. Donc c'est plus une réflexion que je faisais comme ça pour corroborer ce que vous dites, mais il y a un phénomène sociétal, j'allais dire presque anthropologique, quoi, dans ce mouvement-là.
Mais moi, je, en tant que juriste, j'ai un peu d'écho. En tant que juriste, je ne sais pas ce que c'est que l'art. Je suis incapable de définir l'art et chaque personne aura sa définition différente du mot art. Corrélativement, le terme d'artiste ne me parle pas. De toute façon, moi, en tant que juriste, je dois avoir une certaine rigueur et j'espère que je l'ai. L'objectif ici, c'est de parler de création intellectuelle, d'effort de création et de créateur. Pas d'artiste, mais de créateur. Donc, je sacralise pas l'artiste et la SACEM ne le sacralise pas non plus. Enfin, je ne pense pas. On prend la SACEM, hein, mais on ne les prend pas en traître. Hein. On les prend parce que la SACEM, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. La SACEM ne sacralise pas. Quand vous parliez du phénomène de reproduction, c'est ce que disait aussi à son époque Léonard de Vinci, bien piètre l'élève qui ne dépasse pas un jour le maître. Il y a tout ce travail, et je l'ai vu, j'étais la semaine dernière à la bibliothèque de Mériadec, et il y a une fille qui était assise à la table en face de moi qui avait un livre qui était L'anatomie humaine pour les artistes. Et elle a passé l'après-midi, elle a fait d'abord des motifs comme ça pour se chauffer le poignet, et elle a passé le reste de l'après-midi à reproduire les dessins qu'il y avait dessus cette espèce d'encyclopédie. Mais j'ai trouvé le terme encyclopédie anatomie humaine pour les artistes, j'ai trouvé le terme artiste disproportionné ici. J'aurais préféré le terme de créateur ou dessinateur, parce qu'en fait, en dessinant, en reproduisant, elle n'était pas artiste, elle était juste reproducteur. Elle faisait juste un travail de copiste comme il y avait au Moyen-Âge. Je ne dis pas qu'elle ne le faisait pas bien ou quoi que ce soit, mais elle n'avait pas l'effort de création. Tout ça pour dire que l'artiste, il est au centre de la création, mais il n'a pas à être sacralisé. L'œuvre non plus.
On peut aussi partir du principe qu'il n'y a pas de création s'il n'y a pas de rencontre. Si une œuvre n'est pas lue, si une œuvre n'est pas écoutée, ça reste potentiellement simplement une œuvre, comme vous dites, de l'esprit, mais ce n'est pas une... Moi, pour moi, il n'y a pas d'œuvre s'il n'y a pas de rencontre.
Peut-être, mais nombre de poètes écrivent des poèmes et ils laissent les poèmes au fond du tiroir de leur table de chevet.
Oui, mais on parlait de
veulent qu'on les retrouve, ces poèmes, un jour. Il y a un petit fantasme.
Ouais, il y a peut-être un petit... Je ne sais pas, y a les pratiques des uns et des autres sont
divergentes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un acte, un processus de création. Je dis que pour qu'il y ait œuvre ou qu'il y ait pour statut d'œuvre de création, il faut qu'il y ait, il me semble-t-il, une œuvre de création. Après, quand je parlais de sacralisation, on va prendre l'exemple de Zazie, les boueurs qui ramassent ses poubelles tous les matins devant chez elle, peut-être qu'il ne fait pas œuvre de création parce qu'il est dans quelque chose de reproductible et que toute personne pourrait faire son travail parce qu'il n'y a pas, j'allais dire, de création d'œuvres humaines. En attendant, le fait musical, l'écriture, etc., c'était des œuvres, j'allais dire, on parlait d'artisans. comme on pourrait dire, un libraire ou un copiste ou un voilà. Il y a cette dimension-là qui est apparue avec l'idée du droit d'auteur quand même. Et c'est un peu ça qui semble être attaqué avec justement le développement des nouvelles technologies, il me semble. Où l'œuvre est moins centrale. Ce qui compte, c'est la rencontre. C'est un peu ce que vous disiez sur la musique.
Je suis entièrement d'accord. C'est au final ça qui paraît intéressant dans la mise à disposition du public. C'est aussi ça le sens de la licence, première licence pour les logiciels libres, General Public License. C'est l'objectif, à travers la vision du copyleft et de cette philosophie-là, c'est de créer un pot commun. Moi, j'ai écrit un code informatique, un logiciel. Je le mets en copyleft. En le mettant en copyleft, je le mets entre guillemets dans un pot commun. Ce pot commun a pour but de permettre aux autres la rencontre. Je pioche dans le pot pour reprendre le logiciel qui m'intéresse, qui me convient. Je le retravaille, je l'améliore. Et parce que c'est en copyleft, j'ai l'obligation de le remettre dans le pot commun. Libre, faut pas croire que c'est la liberté totale. Le terme libre, c'est un faux ami ici. Le terme libre, ça veut dire libre disposition, mise à disposition libre pour libre réutilisation sous certaines contraintes. On l'a vu pour l'événement qui a concerné notamment les guignols. Le fait de ne pas citer l'artiste, c'est de ne pas reconnaître son travail. Et là, vous parlez de rencontre, c'est une rencontre qui est imparfaite au détriment de l'artiste.
Oui, et puis c'est amusant quand même qu'une société comme Canal+ ait un service juridique aussi fautif. Un autre truc aussi par rapport à la SACEM, justement, la naissance de la SACEM, puisque c'est quand même contre les cabaretiers que la SACEM est née. C'est des auteurs qui ont porté plainte contre un cabaret parisien qui faisait jouer leurs œuvres sans leur demander l'autorisation. Et il faut savoir aussi que ces gens-là auraient pu être à la SACD, qui était plus ancienne, mais ils ont été refusés parce que c'était des auteurs qui n'écrivaient pas de l'art dramatique. Donc déjà, eux étaient des parias par rapport à la SACD et ils ont monté la SACEM. Donc il y a toujours cette dimension élitiste ou non. Si la SACEM ne peut pas trop se permettre d'être élitiste, à mesure où les œuvres qui font le plus d'argent sont plutôt des œuvres très populaires. Pas du tout élitiste. C'est pas Pierre Boulez qui est le plus bankable à la SACEM. C'est plutôt Rihanna ou effectivement... Parce que les droits des artistes étrangers sont aussi récoltés par la SACEM. Je parle de Rihanna parce que en France, quand elle gagne de l'argent, c'est la SACEM qui le récupère pour elle.
Juridiquement, on ne parle pas de société de gestion collective, on parle de SPRD, société de perception et de répartition des droits. Alors quand on parle de droits, il faut entendre que dans cette notion de droit, il y a aussi l'aspect économique. Mais société de perception et de répartition des droits, notamment des droits financiers. De la rémunération. L'intérêt est important quand même parce que il y a des auteurs qui veulent pas ou qui sont pas capables de gérer leurs droits et qui le font à travers ça. Mais l'artiste qui crée une œuvre, il doit autoriser l'utilisation de cette œuvre. Oui. La seule différence avec les licences libres, que ce soit du logiciel ou une œuvre quelconque, c'est une autorisation préalable. Quand je parle d'autorisation, je parle de licence. Désolé, je vais faire un instant un télo, ça vient du latin delicere qui veut dire être autorisé, être permis. Donc le terme licence, si on prend sa racine étymologique, elle est très forte. C'est une autorisation préalable. Moi, je mets à libre disposition, moi créateur, moi artiste, je mets à libre disposition de vous, le public, pour favoriser la rencontre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait de diffuser une chanson sous licence libre, c'est aussi un moyen de se faire connaître. On parlait de musique libre et ce genre de choses. Mais pour l'image, il y a un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Pixabay. PIXABAY.com. Où dedans, des photographes, des artistes plasticiens mettent leur création à libre disposition du public sous licence Creative Commons. Mais Creative Commons, zéro. C'est-à-dire qu'ils ne demandent rien. Même pas l'obligation de les citer en tant qu'auteur. Même pas cette obligation-là. Donc, le mouvement va si loin qu'on en aboutit à une licence où peut-être on pervertit le système. Parce que dans la licence Creative Commons 0, on dénie le créateur. On dénie en disant, mais même pas d'obligation de le citer. Je trouve ça à la fois énorme et à la fois dangereux, pour le meilleur et pour le pire.
Il y a un autre exemple, c'est le site Bandcamp, par exemple, qui permet maintenant aux artistes de pouvoir finalement encore aller plus loin dans la rencontre avec les gens qui sont prêts à les écouter. Moi, j'ai des exemples de labels, qui, notamment un label bordelais ici qui s'est monté, Big Tomato, où la personne qui était un utilisateur de Bandcamp, donc écoutait la musique des groupes, s'est rendu compte que les groupes n'avaient aucune licence associée. Ils mettaient leur musique en se disant, si quelqu'un nous contacte et veut sortir un disque de nous à 300 exemplaires, qu'il nous contacte. C'est ce qu'il a fait, il a monté son label et il sort comme ça des disques. Donc, là, où ce qui le lie, on arrive presque à ce que vous appeliez du copyright, lié au support. Quoi. On se dit finalement, pourquoi pas finalement, parce que finalement, c'est aussi un pari peut-être risqué, mais les artistes finalement prennent ce risque-là de tenter la diffusion en vaille que vaille. Et pourquoi pas, ça peut être...
Il y a quand même un petit problème des fois. Bandcamp, je ne connais pas, mais je me souviens qu'il y avait quand même des petits problèmes avec MySpace à l'époque, où c'était la plus grosse plateforme de diffusion. Oui, effectivement, les gens ne mettaient pas de licence, mais par contre, ils signaient un contrat avec MySpace qui autorisait MySpace à utiliser la musique comme bon lui semblait.
C'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec YouTube et ce genre de choses. Hein, quand on, et même, je peux prendre d'autres applis comme Twitter et ce genre de choses. Tout ce que vous mettez sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube et autres, vous en êtes le propriétaire. Et c'est, lisez les conditions Facebook. Hein, ils le disent et ils l'affirment clairement. Vous êtes et vous restez le propriétaire de ce que vous mettez, des données. Ils utilisent le terme données ou informations. Ce que vous mettez, les informations et données que vous mettez sur Facebook. En revanche, c'est totalement unique, mais juridiquement, le processus, je ne vais pas l'expliquer là, ce serait trop long. C'est normal. YouTube, Facebook, Twitter et autres s'arrogent un droit unique de réutilisation, mais dans tous les sens imaginables possibles, de ce que vous y mettez. C'est-à-dire que un chanteur, une chanteuse très connue qui met sa chanson sur YouTube ou son clip sur YouTube, on pourrait envisager que YouTube puisse réutiliser à des fins commerciales cette chanson-là et agir via cette chanson en concurrence avec l'artiste et avec le producteur. Ça ne se fait pas. Dans la pratique, ça ne se fait pas parce que ce serait un buzz négatif pour YouTube ou pour Facebook et ce genre de choses.
Oui, puis aussi YouTube, ils disposent déjà des coordonnées de personnel de l'artiste et ils peuvent les revendre facilement. Donc, ils ont déjà leur business.
Ils ont un modèle économique un petit peu différent.
Donc, pour terminer, moi, juste mon intervention par rapport à ce que vous dites, c'est que finalement, on s'en rend compte, vous n'en avez pas avec les métadonnées. Ce qui compte dans l'histoire, j'allais dire, de l'histoire générale de l'humain aujourd'hui avec les nouvelles technologies et tout ça, ce qui nous relie au monde, c'est quand même le bien commun. On se rend bien compte que c'est à ce prix-là qu'on aura une mémoire. On le voit par rapport à archive.org ou des choses comme ça. Ce besoin de mémoire, de racines, il vient pas du monde forcément commercial, il vient d'initiatives souvent où le bien recherché, c'est un bien commun, enfin, me semble-t-il.
Exactement.
Je pense pas être naïf à dire ça.
C'est ce que je disais, res communis, les biens communs, les choses communes. Et c'est ce que je disais aussi, le libre accès à la culture. Et c'est très critiqué, ce genre de choses. Et je le critique un petit peu. Le fait de réserver l'accès à une œuvre pendant la vie de l'auteur, ce qui est normal, mais 70 ans après, c'est aussi empêcher l'accès, enfin gêner. C'est pas empêcher, c'est gêner pendant une période que je trouve assez longue, l'accès à la culture. Pour tous.
Oui, d'une part, effectivement, et en plus 70, ça dépend. Hein. Pour Mickey, par exemple, c'est beaucoup plus, puisque au moment où il allait tomber dans le domaine public, il a pris une petite rallonge. Ça, c'est une tendance lourde aussi aux États-Unis. Bon, on n'est pas dans du droit d'auteur, on est dans du copyright. Mais...
C'est le Sonny Bono Act qui a fait ça, Sonny Bono, Sonny de Sonny & Cher, et ce phénomène-là où on a prorogé la protection des droits après la mort de l'auteur. C'était pour Mickey, mais c'était aussi pour Pluto, Dingo et quelques autres personnages de Walt Disney. On parle de Mickey Mouse Effect. Dès lors que ça va tomber dans le domaine public, on prolonge les droits, on fait un effet, il y a l'effet qui est là, pour pouvoir commercialiser un maximum et gagner un maximum d'argent.
Il y a le fait aussi, moi j'avais vu une émission là-dessus par rapport aux ayants droit de RG qui bloquent tout. Et justement, il y avait Silex, notamment, enfin, le blog Silex, qui parlait de ça, c'est que les grands mythes, les grandes inventions, enfin les grands personnages, la mythologie, c'est toujours un recyclage d'autres formes. Walt Disney a réutilisé les contes d'Andersen, etc., à son insu, et maintenant bloque la possibilité à des artistes de détourner les personnages de Disney, s'ils étaient tombés, j'allais dire, dans une utilisation publique, pour pouvoir en faire d'autres personnages, les faire évoluer en liaison avec l'évolution de notre époque. Et c'est ça qui est quand même en jeu, c'est cette capacité de se questionner la société, c'est la fonction de l'art quand même, de nous questionner sur nous-mêmes, sur notre société, et pour des questions de droit, on bloque cette évolution naturelle qui a toujours existé autour de figures culturelles ou des choses comme ça.
C'est sûr que si Aesop avait interdit l'utilisation de ses œuvres, on n'aurait pas leur fontaine. Hein. Effectivement, mais pour ces questions, justement, je vous conseille d'aller voir sur le site Numérama, il y a une rubrique qui s'appelle Copyright Madness, et vous avez une sorte de digest de toutes ces absurdités qui arrivent malheureusement très fréquemment et de plus en plus fréquemment sur ces questions de propriété intellectuelle.
Je pense qu'on va arrêter là parce que du coup l'heure tourne et je voudrais qu'on lance le concert. Moi, est-ce qu'il y a encore une petite dernière question ? Bon, mais on va laisser du coup Jonathan et David se préparer et je vous propose de faire une petite interview du coup après votre petit concert. Allez.
Émission spéciale Radio Girol en direct. Histoire de la culture libre.
On recrute.
C'est promo sur l'adhésion.
On recrute.
Fini la contraception.
On recrute.
Offre-toi une nouvelle oppression.
On recrute.
Hétéropose ta démission.
Ici tu trouveras des perles, des diamants, des paillettes dans tes lunettes, ce sera tout le temps. Nos beautés singulières, c'est comme un bol d'air face au schéma ordinaire. Ni modèle, ni fiche technique. Ensemble on affine nos pratiques.
Pas besoin d'aller sur Facebook ou Twitter. Des amis, tu t'en feras trois par heure. Tout le monde est gentil et de bonne humeur. Pas de café, de beurre ou de liqueur. On nage tous dans un parfait bonheur.
Rejoins un crew, relève la tête, reste pas tout seul, viens à la fête. Rien n'a changé dans ton body, tu sais pas pourquoi, tu te sens sexy. Puis que t'es là, tu danses pas mieux, mais quand tu bouges, c'est merveilleux. Homophobie désintégrée, arbore ton plastron TPG.
On recrute.
C'est promo sur l'adhésion.
On recrute.
Fini la contraception.
On recrute.
Offre-toi une nouvelle oppression.
On recrute.
Hétéropose ta démission.
Tu seras la rebelle de la famille, tu déclencheras la polémique. Sujet de débat hostile, envisage une fuite rapide. Après avoir pleuré dans le noir, ouvrant les portes de ton placard.
Libre de nos imaginaires, on invente nos façons de faire. Des activités à toute heure, soirée, réu, dîner, atelier. Déménagement, rassemblement, et ça, toujours dans la bonne humeur. Sorcière, win à tout faire, transporteur, diver. Chez nous c'est sûr, tu trouveras ton bonheur.
Je suis pas relou pour un sou, je t'appellerai pas mademoiselle, ni sous ma gazelle. La drague chez moi c'est fictionnel, l'histoire est toute tracée dans ma cervelle. Dans la vraie vie j'ai pas encore osé te parler. Je fais passer le message à une amie queen, qu'il dira à un pote trans qui a une pote queen, qui dira qu'il paraît que tu me plais.
Ici pas de drague relou, quelques regards au niveau des genoux et des bredouillages à l'oreille de mots doux. Non non, pas de drague relou, juste le sens de l'humour et les yeux doux. Tu seras bien accueilli chez nous sur la table, serre-toi, y a du tofu. Y a pas qu'au jardin que tu trouveras des petits choux. Des chouchous chez nous, y en a partout.
Viens chez nous, tu vivras la consanguinité et la non-exclusivité. Et tout ceci sans conflit, sans jalousie et dans l'harmonie, parce qu'on sait se gérer.
Dis adieu à ta cystite, t'auras plus le pipi qui pique. Un avantage non négligeable qui rend la vie plus agréable. Plus de confusion, on t'en urette, ton clitoris. T'inquiète, on sait par où tu pisses.
Viens chez nous, tu verras que le sexe c'est pour le plaisir et pas pour procréer. Pas besoin de s'occuper de l'avenir, on a déjà le présent à inventer. On est le fléau des nations, on ne contribue pas aux nouvelles générations. Mais on continuera à s'aimer des rêves pailletés de folles dégénérées.
C'est
promo sur l'adhésion.
On recrute.
Fini la contraception.
On recrute.
Offre-toi une nouvelle oppression.
On recrute.
Hétéropose ta démission.
Les années passent, on reste en place. Toujours décalé, chaque fois qu'ils veulent nous donner un âge, c'est sûr ils vont se planter. Ils peuvent pas capter que pour nous la jeunesse c'est pour l'éternité. Tu vois bien échapper à la normalité, c'est bon pour la santé. Faut pas hésiter, tu vas kiffer comment le bébé.
Pour des années t'auras des réduits 15-25 ans. Dans le train t'auras même le droit à un accompagnant. T'auras l'air d'un mineur en fugue, en stop on prendra rapidement. Nourri par toute cette foudre, tu vivras plus longtemps.
On
a la jeunesse éternelle, la déviance nous donne des ailes. Et même après 30 ans, on s'habille au rayon enfant.
Si t'as des problèmes d'argent, prends plus la tête en comptant les 3 sous manquants sur ton épargne logement. Toute ta vie ne sera qu'économie. Oublie la monotonie d'un travail en CDI. Lâche donc ta maison à crédit. On trouvera un squat, tu verras, c'est gratuit.
Tu veux quoi?
Piscine, jardin et angle saillant. Pas besoin d'ergonomie pour la sécurité des enfants.
Parce que t'en auras pas des enfants.
Si t'en as déjà, t'inquiète, ils sont mûrs avant 2 ans. Les TPG rendent les enfants plus intelligents.
Émission spéciale Radio Girolle en direct. Histoire de la culture libre. Bibliothèque Jean de la ville de Mirepoix, Bordeaux.
Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole.
Saint-Ogue 2016. Yeah. Allez.
GMB Connection.
Yeah.
Débarque.
Ouais.
Dans ta face.
Ouais.
Dans sa face.
Ouais.
Dans ta face. Débarque dans ta face.
Je voudrais gueuler, hurler plus fort, même si j'ai tort, même sans renfort. Je veux faire de l'art, pas de la routine, que je sois tricard ou bien le king.
Et ce n'est pas parce que je suis heureux que je vais chanter des trucs mielleux.
Ce n'est pas parce que je suis dans l'offre que je vais te chier de la guimauve.
Ce n'est pas parce que je me trouve trop cool que je me fondre dans un moule.
Ce n'est pas parce que j'ai la patate que ma prose va sentir la savate. Ce n'est pas parce que je suis pas au top que tu me verras faire de la pop. Ce n'est pas parce que je suis au fond que tu m'entendras couper le son.
Ce n'est pas parce que je suis comme une blatte que je vais laisser tomber le bicrate. Ce n'est pas parce que je parle négatif que tu dois me prendre pour dépressif.
Chanterai encore des trucs bien gore. Sans faire de sport, jusqu'à la mort, chante toujours, pour les vautours, du premier jusqu'au dernier jour.
Chanterai la peine,
la peine,
la joie, la haine,
la joie, la haine,
chaque seconde,
chaque semaine,
chanterai encore,
encore,
chanterai encore,
encore,
chanterai encore,
encore.
Ce n'est pas parce que je n'ai plus 15 ans que je n'ai plus de t-shirt d'Iron Maiden.
Ce n'est pas parce que je suis adulte que je vais renoncer à croire en Hulk.
Ce n'est pas parce que j'ai un boulot que je vais perdre mes idéaux.
Ce n'est pas parce qu'on me dit responsable que je ne dois plus me mettre minable. Ce n'est pas parce que je comprends pas tout que je dois avoir peur de vous.
Ce n'est pas parce que je suis sur roulette que je vais pas conquérir la planète. Ce n'est pas parce que tu n'es pas moi que tu dois avoir peur de moi.
Chanterai encore des trucs bien gore. Sans faire de sport, jusqu'à la mort. Chanterai toujours pour les vautours, du premier jusque
Au dernier jour, chanterai la peine, la joie, la haine, chaque seconde, chaque semaine, chanterai encore.
C'est pas parce que je suis pas Klingju que je sais pas faire de rap corrompu.
C'est pas parce que je suis pas Didier que je peux pas critiquer le métier.
C'est pas parce que je suis pas Wax Taylor que mes beats ne valent pas de l'or.
Ce n'est pas parce que je suis pas Sivai que je peux faire solo qui défourait. C'est pas parce que je suis pas Dieu qu'il ne faut pas me prendre au sérieux.
C'est pas parce que je suis pas personne qu'il faut croire que jamais je déconne.
C'est pas parce que je ne suis pas
Patrick Sébastien que tu ne dois pas avec moi chanter ce refrain. Chanterai encore de tout bien gore sans faire de sport. Jusqu'à la mort, chanterai toujours pour les vautours, du premier jusqu'au dernier jour.
Chanterai la peine,
la peine,
la joie, la haine,
la joie, la haine,
chaque seconde,
chaque semaine.
Chanterai encore,
encore,
chanterai encore,
encore,
chanterai encore,
encore.
Yeah!
Yeah, merci, bonsoir Jean de la ville de Miremont.
Jean de la ville de Miremont, mais quand même à Bordeaux.
Quand même à Bordeaux métropole.
Yes.
Pour la culture libre.
Et ce soir...
C'est Jonathan et...
Et David.
Et comme on est un groupe libre, on peut avoir une ouverture. On est un groupe ouvert.
Ouais.
Et donc on va avoir un invité.
On peut avoir des invités et de la participation.
Un groupe participatif, c'est à la mode en plus. Ça. C'est vrai. Et donc il vient de loin. Vous allez voir au début, il a l'air timide, mais... Il y a une bête de flow. C'est le cousin...
Wally!
Le cousin Wally! Jean de la ville de Miremont, t'applaudis le cousin Wally.
Bonsoir, bonsoir.
Il est poli.
Et en plus, il est poli.
Et donc, on va faire une chanson qui s'appelle
Yes, cousin Wally!
C'est parti. Écoute, mec, je te présente mon cousin. Il vient de loin. Artiste! On est dans la famille de père en fille. Comme nous, il cause pas dans le vent. Rap militant. Crois-moi, ce gars c'est un cador. Faut de l'or.
Ok, si c'est pour faire du blé, on peut le tenter. Je viens lui lâcher un couplet qui puisse poser. En plus, si on veut faire le poids, c'est mieux à trois. Cousin, fais donc claquer un thème, nique le système.
C'est la merde mon cousin, c'est la merde blesse. Marrakech pas à nous, Marrakech ou pas sous. C'est la merde mon cousin. Merde, merde, khal ferda. Stafit ou khfat, l'mrouj nizlat. Zra ou djibdat, mou attalin tchubhat. Ou jette n'as ou tchijat. Ou l'hukouk n'ibghat, ou l'qam'a t'arrabat. Ou bul mouhakamat, souria t'hakamat. Ou f'soujoun t'tarmat. Ou n'touma l'khouanjiya, sa'atkoum qarrabat. Merde, merde.
Ce mec, c'est quoi cette langue pourrie? J'ai rien compris. Ça se trouve, il nous sert des salades, il nous balade. C'est mort, avec ça on sera jamais disque d'or. C'est sûr, j'aurai pas ma villa en Côte d'Azur.
Attends, hier j'ai vu un truc en occitan. C'était blindé, la queue faisait tout le tour du quartier. Crois-moi, on le tient notre tube cette fois. Cousin, continue, même si je capterai le cul.
Putain, je comprends
rien. Moi non plus, mais ça groove. On essaye. Laissez fuser. Cousin, ça fait du bien ce son qui vient de loin. C'est con car quand tu rappes, ça reste un peu abscon, pas de soucis. À toi je te fais confiance, cousin Wally.
Ok, mais j'espère que t'es pas trop engagé. C'est que j'ai prévu d'aller au Maroc cet été. Enfin, je vais pouvoir me faire plein de copains. Maintenant, j'aurai au moins un truc à dire aux gens.
Wanjia Dlam Dlam, Wanjia Erhabioun. 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 Wanjia Dlam Dlam, Wanjia Erhabioun.
Wanjia Dlam Dlam, Wanjia Erhabioun. Wanjia Dlam Dlam, Wanjia Erhabioun. Wanjia Dlam Dlam, Wanjia Erhabioun. Wanjia Dlam Dlam.
Merci.
Ça
Saint-Jean de la ville de Miremont.
C'était le
cousin Wally. Qui va repartir chez lui quand même.
Et oui, c'est pas tout, il a un long voyage.
C'est ça, et puis c'est quand même au concert de Jonathan et David.
Faudrait pas qu'ils viennent nous forquer notre soirée, quoi.
Exactement. Et même que c'est bien de partager, mais c'est bien d'avoir la scène à soi. Et là, je crois que c'est le moment pour moi, quoi. C'est mon moment. Faut que t'en profites, Miremont, de ce genre de la ville, de cette Auguste.
Quoi ?
Chaque fois que j'essaie d'écrire, j'arrive plus à parler du pire. Et John.
Ouais.
Je crois que j'ai un truc qui déconne. J'arrive plus à me souvenir comment ça fait de ne pas dormir.
Et mais en fait, t'as raison, tu t'es regardé dernièrement. Je ne sais pas, t'as l'air niais, un peu comme si t'étais content. Tu parles sans crier, tu ne serais pas sous tranquillisant. Tu me fais un peu flipper, tu ne frappes même plus les gens. Et si je te parle de guerre ?
Je les trouve beaux, tous ces légionnaires.
Qu'est-ce que tu penses des traders ?
Eux aussi sans te battre leur cœur.
Les pétroliers et leurs tankers.
J'ai pitié, il se peut qu'ils meurent.
Tous les prêches.
Je crois que je suis A.
Émique ?
Je suis A.
Acyclique ?
Je suis A.
Apathie ?
Oh, je suis A.
Hérophagie ?
Je suis A.
Seigneur primonieux.
Amoureux.
Sois sérieux.
Non, je te jure, mec, je crois que c'est sérieux.
Allons, mec, c'est un truc de nerd.
Ouais, mais parfois, tu vois, la propriété, tu m'appartiens, je t'appartiens. C'est pour la vie, c'est bien, des fois. Écoute. L'autre jour, le soleil chauffait et les oiseaux me chantaient une chanson. Alors j'ai voulu cueillir un beau bouquet et l'offrir à une personne qui passait.
Avant de l'agresser ou de la racketter, ne me dis pas que tu l'as violée. Mais si t'en as rien fait, alors pourquoi donc s'y intéresser ? Mais ça va pas durer.
Je lui ai offert mon cran d'arrêt.
Tu lui casseras les dents.
Et on aura 19 enfants.
T'en voudras sa peau.
John, je te trouve beau.
Arrête de te forcer.
Est-ce que je peux t'embrasser ?
Tu es amoureux.
T'es amoureux ?
Tu es amoureux.
Mais non, ma vie.
Tu es amoureux.
C'est juste la deux.
Tu es amoureux.
Retourne au pieu.
Tu es amoureux.
Ça ira mieux.
Tu es amoureux.
T'es peut-être fiévreux.
Tu es amoureux.
C'est contagieux.
Sois sérieux.
Je suis A.
Tardé.
Je suis A.
Atterré.
Oh, je suis A.
Ah, anesthésié.
Je suis A.
Ankylosé.
Je suis A.
Arsénieux.
Je suis A.
Atypeux.
Amoureux.
Sois sérieux.
We'll be right back.
retardé, atterré, accablé, anesthésié, à dit peu, sois sérieux.
En fait, on est copains.
Eh oui, il y a du niveau de comédien, là. Mais c'est pas tout, parce qu'on était venus pour faire de la musique, des trucs qui sonnent, genre...
Genre ça, voilà.
Ouais,
ouais, des trucs qui restent dans la tête.
Qui restent dans la tête.
Des trucs qui ont ton problème de droit.
Je crois que...
Si on faisait d'autres de tubes.
Ouais, on va faire quelque chose qui reste dans la tête, mais avec lequel on n'aura pas de problème.
Genre ça. Il me traque, me détraque, me rend le chemin malgré mes reproches. Il me gâche la fête, me mâche la tête, rabâche et répète.
Parce que c'est juste rassurant dans ses sangs de passer du rang sur ce putain de tube qui en coupe la hi-fi.
Il y a un featuring, question de BNF. Il faut que tu t'échappes avant que le tien d'Open parle pour l'or. Il t'emmène en toi, pas besoin de toi, t'entends. Tu n'en feras jamais trop pour la beauté de la vie. Tu vas les sympathiques sur ce putain de tube. Avec une putain de tube qui met sur ta veste, sur les fesses. Et puis on est conscient que ce putain de tube il est important. Putain de tube, est-ce que tu m'entends? Ce putain de tube qui le maintenant. C'était Jonathan et David featuring Grâce et Volupté en guest. Et en fait, le souci avec les putains de tubes en licence libre, c'est quand même les droits d'auteur. Et nous, on fait quand même du hip-hop à la base pour faire du pognon. Alors, on a trouvé une autre idée, c'est de vendre du rêve. Enfin, de proposer du rêve et de le vendre. Genre ça.
Depuis 1993, les théories avancées par les experts sont remises en cause. Le débat est relancé, car les techniques de pointe utilisées par une nouvelle génération de chercheurs remettent en question les évidences du passé en fournissant des preuves irréfutables.
Pour moi, il ne fait aucun doute que les Égyptiens étaient les héritiers d'un antique savoir et d'une antique sagesse.
Il y a la grande qualité astronomique des pyramides, l'alignement stellaire des puits. Tout nous laisse à penser que la réponse n'est pas ici-bas, mais là-haut.
Salut à tous, je reviens du Chili, 30 heures de différence entre les deux pays pour le voyage. Je prends une douche et je suis heureux de venir vous remercier parce que dans l'intervalle, en cette période d'une trentaine d'heures, vous avez été capable de rassembler 30 000 euros et un peu plus. Or, c'est parfait, ça fait que l'on va pouvoir commencer. J'en profite pour vous dire que si vous étiez un tout petit peu plus généreux, on pourrait peut-être aller dans la foulée, pour raison d'économie, au Pérou et en Bolivie.
Je marche dans le désert sous soleil depuis des heures.
Je roule, je me perds.
On joue aux explorateurs. Mais je suis sûr de ne pas commettre l'erreur.
On part en quête des antiques bâtisseurs.
J'arpente solitaire les dunes de Sabinénaire.
D'autres ont cherché avant moi, mais ils portaient des œillères.
Ma mission se profile,
vous apportez la lumière.
Dans ce monde trop droit,
nous on résonne en circulaire.
Je crois pas, c'est ma gaffe, mais je suis le roi. Les arguments, je les abats.
Je n'écoute que moi. Sur la science, je sois le roi. Je pencherai pour aussi les peuples antérieurs.
Mes calculs sont formels.
Tout corrobore
même les erreurs.
Nous allons devenir les grands. Révélateur.
Alors je me mets à creuser avec ma volonté pour guide.
Regarde le sable qui s'entasse forme une pyramide.
On va montrer à ces savants que leur savoir est insipide.
Et qu'ils devraient nous écouter le fomenter des génocides.
Car j'y crois, c'est ma guerre, c'est mon combat. Des théories, je suis le roi, les arguments, je les abats. Je n'écoute que moi, sur la science je m'assois. Le vrai c'est moi, je conçois que je sois sorti de ce moi. Commencé en vacances en été.
Ou avec Jonathan, nous posions des pâtés.
Soudain, un grand éclair, je sentis le sol trembler.
Au fond du sol, le sable, c'était mis à nous parler.
Il m'a décrit le monde d'où il était issu. Jadis, David sculpteur l'avait si aperçu. Dispersant en sirène, les clés d'un grand secret.
Et depuis ce message, on creuse sans arrêt.
Un
passe dans le ciel, décrit des cercles étranges. Là-haut dans son espace, il ressemble à un ange. La troisième fois qu'il passe, je vois l'horizon qui danse.
Un signe bien réel, pas une simple coïncidence.
Je tombe, l'oiseau se pose,
une communion, une prière.
Approuvant un smagnose,
le dogme universitaire.
Extasié, mes yeux se ferment quand il se penche à mon oreille. Et mec qui m'a élu, je vais apprendre des merveilles.
Car j'y crois, c'est ma guerre, c'est mon combat. Des théories, je suis le roi, les arguments, je les abats. Je n'écoute que moi, je la science, je m'assois. Le vrai, c'est moi qui nous passe par toutes les sorties, les émois. Ce piaf à mettre sa tête dans ton gosier. Si tu te transmets son secret, moi aussi je veux participer. Ça fait quand même 30 ans que je brasse du gravier.
Mais arrête de râler, tu vas tout faire foirer.
Eh mec, t'es sûr de toi? Tu te fais charcuter. J'en arrive à penser que c'est un chercheur déguisé. Jonathan, relève-toi, ne te laisse pas piéger.
Et toi, alors que on va te coller un procès.
Car j'y crois, c'est ma guerre, c'est mon combat. Les théories, je suis le roi, les arguments, je les abats. Je n'écoute que moi, sur la science, je m'assois. Le vrai, c'est moi qui nous conçois toutes les sorties de mes émois.
Car j'y crois. Car j'y crois. Car j'y crois.
Chaque fois sur Soleil, il s'énerve et après il part. Jonathan, reviens, on était méchants, on va être gentils.
Ouais, comment?
On va être. Qu'est-ce qui te ferait plaisir?
Là, tout de suite?
Je sais pas, qu'est-ce que t'as toujours eu rêvé?
Le truc dont j'ai le plus rêvé, je crois, c'était d'être astronaute.
Eh ben, est-ce que ça te dirait de devenir astronaute ce soir?
Ouais, mais les études sont vachement longues, les sélections sont hyper compliquées.
Je te dis qu'on peut le faire dans la bibliothèque parce qu'ici, c'est quand même la ville de Saint-Jean-de-Miremont, ce qui n'est pas rien.
Ok, je veux bien alors.
Allez, alors va voir derrière ce que je t'ai amené, ton casque de cosmonaute, tu l'as? C'est ça. Ton casque de cosmonaute. T'es prêt?
Ouais.
Il te manque juste une fusée?
Ouais.
Alors imagine la fusée, genre elle est devant toi. Tu okay. La vois la fusée?
Ah ouais.
Tu vois là une belle fusée avec marqué un gros J dessus?
Yeah.
Tu vois l'échelle de la fusée?
Ouais.
Tu montes sur l'échelle de la fusée, okay. tu grimpes. C'est une super grande fusée. Hein. Tu grimpes et t'arrives, tu vois la porte en haut. Elle est ouverte, t'as du bol, il aurait fallu chercher les clés sinon. Tu rentres. C'est une belle fusée. Hein.
Mmh.
Et tu t'installes sur le siège de ta fusée. Le plein est fait. T'as ta ceinture?
Ouais.
Voilà. On n'est jamais trop prudent. Et là, il te manque plus qu'un seul truc, c'est le compte à rebours. Alors avec la bibliothèque de la ville de Saint-Jean-de-Miremont, d'Augustin, on va faire le compte à rebours, c'est pas compliqué. C'est un truc... C'est classique, quoi. Ça commence avec, avec 10. Avec un 9, après il y a un 8, et après il y a un 7, un 6, après un 5, ne stresse pas, ça va bien se passer. Le 4, pense à ton rêve. 3, ça sert à rien, il n'est pas là. 2, 1, et t'es parti, tu décolles, tu ne fais même pas un mal à la tête parce que t'as ton casque au plafond de la bibliothèque. Tu t'envoles, tu vois cet Augustin qui vient tout petit, il se fond dans le Bordeaux. Tu vois plus rien, tu vois le ciel qui vient bord nuit. Parce que t'es au-delà de l'univers.
10 000 milliards de planètes comme la Terre dans l'univers. C'est super. Autant de frères et de sœurs prêts à faire la puff et l'after.
À toute heure.
Du son neuf, du frais des ondes par les collègues des autres mondes. Viens faire fondre ton acide lactique dans la clique intergalactique. De la rencontre de l'inédit, plus riche qu'une encyclopédie. Viens te la jouer Casanova dans les lights d'une supernova.
Profitez-en.
Alors sois gentil comme notre pote E.T.
Regarde même ton papy slash échant.
I'm happy, reste l'affirmatif comme nouveau leitmotiv. Et si des doutes sont permis, ne te trompe pas d'ennemi.
10 000 milliards de planètes comme la Terre dans l'univers.
C'est beau.
Autant de corps, de cerveau, et ta pensée du nouveau. Des paquebots rempli de rainbow, pas très loin, je suis sûr aussi. Pullule des mecs comme De Vinci, ils sont peut-être bleus, ils n'ont pas d'os et se trimballent dans le cosmos. Sans y aller d'un coup de charter, au lieu de la jouer Starship Trooper. Imagine le tableau à travers ton hublot.
Tu me racontes pas?
À
Alors sois gentil comme notre pote E.T. Regarde, même ton papy se lâche et chante Rappi, reste l'affirmatif comme nouveau leitmotiv. Les idées doutes sont permis, ne te trompe pas d'ennemi.
7000 millions d'êtres humains comme nous sur la Terre.
Mais y'a la guerre.
Écoute-moi bien, petit père, je ne vais pas me la jouer grand frère.
Oui, écoute-nous, cousin, non, on n'est pas de vin.
Mais s'il y a un truc qui nous vénère, c'est tout le temps qu'on perd à s'exciter les nerfs sur tout un tas de petites misères.
Alors laisse tomber tes grands airs et ton costume de gangster. Tu vois, ce n'est pas un calvaire, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. C'est d'être gentil, comme une pomme d'api. Regarde tous ses amis qui chantent. Et qui sourit.
Ne sois pas trop naïf, ou tu vas prendre double tarif. Garde ton côté abrasif pour pas virer végétatif.
Oui, sois gentil, comme notre pote bandit. Comme une horde hippie, comme Épicure aussi. Teste l'affirmatif, comme nouveau laïcotif. Bien sûr, les doutes sont permis, mais ne te trompe pas d'ennemi.
Et merci, on arrive à la fin.
Et ouais, et comme vous avez été un bon public...
On va vous faire une bonne fin.
Une bonne fin avec un bon morceau.
Un bon morceau de fin.
Faudrait un truc qui a un peu de standing, qui pète un petit peu...
Et qui soit hip-hop, parce qu'on est quand même...
Qui soit hip-hop, il nous faudrait...
Un accessoire hip-hop.
Yeah. Des casquettes de hip-hop.
Yeah. Pile à la bonne taille, c'est incroyable. Et un bon morceau.
Ouais.
Du bon son, par
exemple. Du bon son, ça serait cool.
À toi l'honneur.
C'est un scandale.
De Montréal au Népal,
les étudiants,
les militants,
les requins et les éléphants, on les assassine.
Vite un stylo,
une bassine que je vomisse ma NMMO.
J'ai donc ça avec un propos,
et je vais être sûr de bien faire,
de pas être compris de travers, choisir la cause prioritaire,
celle qui est vraiment salutaire.
Faudrait me battre, sauver la terre, partir en guerre contre la misère,
ou mettre sa misère à la guerre, agir en bien, pas le contraire.
Mais c'est pas si évident
de faire un grand bond en avant. Parfois tu crois que tu es aidant,
alors que tu n'es que vent.
Du coup je vais rester prudent,
être moins rentre dedans.
Je veux pas être quelqu'un qui ment, donc je vais dire seulement
qu'on fait du bon son. Ouais mec, du bon son. On fait du bon son. Ouais mec, du bon son. On fait du bon son. Ouais mec, du bon son. On fait du bon son. Ouais mec, du bon son. C'est une honte. Les peuples subissent la tonte
de leurs acquis,
de leurs droits,
de leur sous-sol et de leur voix.
On leur explique
qu'ils ont le choix de se nuire en lui-même clic et de prôner une autre voie.
Mais c'est là que tout se complique.
Si l'on veut s'émanciper,
quelle doit être la première réplique?
Par quelle thématique commencer?
On fait le monde d'options qui rendent le combat fécond.
Tant de luttes, tant de mixtures pour pas finir comme un vieux con.
Mais c'est pas gagné, la société sans remanier. Par de mêmes casquettés qui passent leur temps à gueuler.
Alors je reste à la maison,
je pisse du texte sans fond ni raison.
Elles vont pas bien dans mes fictions,
elles vont pas bien dans mes mixtures. Mais je fais du bon son.
Ouais mec, du bon son. On fait du bon son. Ouais mec, du bon son. On fait du bon son. Ouais mec, du bon son. On fait du bon son. Ouais mec, du bon son.
C'est tous les mêmes
dans le média système.
Les prêcheurs,
les experts,
depuis l'époque de ma grand-mère.
C'est tous des pitres,
mais c'est dans tous le même chapitre.
La même prose dépendant la masse culture dominante.
Mais ce n'est pas facile d'avoir la parole utile.
Ne pas sombrer dans le futile, se transformer en chien docile.
Un dur projet, écrire une compo engagée. Tu mets un dos au lieu d'arrêt.
Et te voilà aux enfoirés.
Oui, j'ai peur de me tromper,
de me faire manipuler,
de ne pas savoir en parler,
de finir par déraper.
Alors je crie sans opinion,
je fais si ce n'est pas mes oignons.
Je joue au crooner mignon,
au musicien,
à l'ingé son qui fait du bon son.
Ouais mec, du bon son. On fait du bon son. Ouais mec, du bon son. On fait du bon son. Ouais mec, du bon son. On fait du bon son. Ouais mec, du bon son.
Merci à vous.
Merci à vous. C'était donc Jonathan
et David.
Faut nous retrouver sur...
sur internet.
Sur Facebook. Sur YouTube.
Sur YouTube.
Et sinon, sur revolutionsoundrecord.org, tous nos morceaux en téléchargement, licence CC BY NC SA 2.5. Ouais. Voilà.
3, on est passé à 3.0.
Non, mais oui, on garde 2.5, c'est la mieux.
Ah, d'accord, ok, si tu veux.
Bonne fin de soirée à vous.
Merci à tous.
Bon.
Au revoir.
Émission spéciale Radio Girol en direct. Histoire de la culture libre. Bibliothèque Jean de la ville de Mirepoix, Bordeaux.
On va laisser le temps à Jonathan et David de venir jusqu'à nous et on va leur poser deux, trois petites questions quand même. Ils vont s'installer, mettre le casque qui est obligatoire pour pouvoir participer à la radio. Oui, ça fonctionne.
Ok.
Alors, bonsoir à tous les deux, déjà.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue sur Radio Girol. Enfin, bienvenue, vous y étiez déjà.
Vous n'avez pas souhaité la bienvenue en même temps.
Oui, c'est vrai.
Voilà, chose réparée. Alors, on connaît déjà David, qui est venu, pour ceux qui écoutent Radio Girol depuis longtemps, il est venu avec un de ses anciens groupes, Trois Petits Points, mais toi, Jonathan, on ne te connaît pas du tout.
Ah bon ?
Pourtant, il gagne à être connu. Hein.
Ah bon. Merde alors.
Voilà, mais de toute façon, vous gagnez à être connu.
C'est qu'il y a un problème dans notre stratégie com, alors si je ne suis pas encore connu.
C'est ça. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Donc, Jonathan de Jonathan et David. Moi, je suis musicien aussi depuis près de 20 ans maintenant. Instrumentiste, guitariste. J'ai officié dans plusieurs projets musicaux type rock metal. J'ai un projet parallèle qui s'appelle Fandorine, dans lequel je joue de la guitare. Et avec David, on se connaît depuis maintenant 10 ans, pas loin.
Par là.
Pas loin de 10 ans. Et naturellement, on en est venu à avoir développé l'envie de travailler ensemble et de développer ce projet qui est devenu Jonathan et David.
Alors, d'où est venue l'idée de ce duo rap du troisième type ?
De l'envie de faire un truc et on ne savait pas quoi. Donc on a essayé, ça a marché, on se dit ah ben c'est bien, on pourrait en faire un deuxième.
Et puis on voulait un truc qui ne soit pas prise de tête, quoi, où on n'avait pas besoin de trimballer des gros amplis, de se coordonner à plein de monde pour faire des répétitions, quelque chose d'efficace.
Alors les auditeurs ne peuvent pas le voir, du coup c'est de la radio, mais il y a quand même toute une scénographie, il y a un petit spectacle, une arrivée sous un drap doré.
Ah. S'il y a des programmeurs amateurs qui écoutent, regardez le...
Alors, on va garder le mystère, mais il y a une scénographie, donc il faut les faire venir. Donc, ce n'est pas qu'un projet musical. C'est un projet un peu plus... on va employer un mot à la mode, transversal.
Ouais, parce que quand on s'est dit qu'on allait faire du hip-hop, on s'est dit qu'on allait révolutionner le genre, quoi. Donc, on a cherché sur quoi on pouvait le révolutionner, et on s'est dit que sur la mise en scène, il y avait des trucs à faire.
Effectivement, il y a des trucs à faire.
Juste après, l'idée, c'est que c'est que ça allait être chiant, sinon... On est deux gars là qui on appuie sur des boutons, on danse la musique. Enfin, ça faisait un petit peu karaoké aussi.
Ouais, un petit peu.
Donc c'est la valeur ajoutée.
Alors d'où vous vient l'inspiration ? Il me semble que j'ai vu quelque part sur votre Facebook ou sur le site, je ne sais plus trop, Stupéflip. Moi, ça me fait penser légèrement à la façon, le flow des fois me fait penser aux inconnus, pour ceux ici qui ont connu tous les morceaux rap des inconnus.
Je ne sais pas si c'est un compliment. Ils avaient un flot de merde. Non, mais je ne sais pas. Ouais. Moi, j'ai vu les inconnus quand j'étais petit.
Moi aussi, j'ai vu les inconnus.
Les salauds, ils ont bouffé notre inconscient.
Je préférais les nuls, mais ils faisaient moins de chansons. Mais plus sérieusement, les inspirations... Stupéflip, qui était cité, c'est une bonne source. Après, on pourrait parler de Didier Super de manière
un peu
plus large, en termes de concept, on va dire. Mais... c'est notre cuisine interne, quoi. Faut pas trop qu'on la dévoile, sinon après on va voir qu'il y a que du vent.
Et vous allez après on va
vous copier. Avoir plein de Jonathan et David, après. Et Alfred et Gérard. Bon, on a eu du bol qui s'appelait Jonathan et je m'appelais David, parce que ça claque
clair.
Comme nom déjà.
Ça claque bien. C'est facile à retenir.
Tout à fait. Il faut juste penser à un groupe très connu des années 80 et tourner ça un peu.
Moi, je suis né en 81, donc j'ai pas trop connu la musique des années 80.
80 et Bob et Marley,
c'est ça. C'est ça. Vous avez vu juste. Et alors, la musique libre, comment, en tant qu'artiste, on vient, justement, parce qu'on a parlé licence beaucoup, mais du coup, on a un peu parlé du parcours de Rico, mais vous, comment vous en êtes venu à la musique libre ?
Moi, j'avais un groupe Trois Petits Points qui était hyper connu. Et en fait, il y a Rico, il venait sonner à ma porte tous les soirs. « viens chez nous, c'est bien. » Et au bout d'un moment, j'ai craqué. Hein. Ça, j'ai pas eu le choix.
Moi, j'avais peur d'avoir des procès en mettant mes morceaux gratuitement sur Internet. Donc, j'ai préféré pas courir de risque en mettant sur musique libre. Comme ça, personne ne peut me reprocher d'avoir téléchargé mes titres sans m'avoir donné d'argent.
C'est ça. Il ne peut pas avoir le FBI qui débarque chez toi avec un bélier pour t'embarquer.
C'est ça, ce qu'on voulait éviter.
La vraie version Non, la vraie version, c'est que avec justement sur le Trois Petits Points, l'ancien groupe, on l'a fait commencer dans les années 2000 et on a voulu mettre la musique sur Internet et on jouait pas mal de concerts en même temps. Du coup, on s'est renseigné de comment ça se passait au niveau droit. Et on a vu qu'à l'époque, si on rentrait à la SACEM, on n'avait pas le droit de mettre nos morceaux. Alors il fallait qu'on paye pour mettre nos morceaux sur Internet et de même pour jouer, il fallait qu'on paye la SACEM pour avoir le droit d'interpréter nos œuvres, ce qui ne nous correspondait pas. Et nous, on voulait pas forcément faire du pognon, c'était plus jouer ou faire écouter nos trucs, le Lego, quoi, Lego à 100%. Et du coup, vu qu'on n'est pas des punks, nihilistes, même s'il peut y avoir des punks nihilistes, hein, c'est pas ça, on s'est renseigné. Et ce qui correspondait bien, c'était... on ne s'est même pas renseigné, en fait. On s'est mis sur un site qui s'appelait BN Flowers à l'époque, je crois, c'est ça. Et où ça existait. Truc où les... Ouais, voilà. Et en fait, ça permettait de mettre sa musique à disposition. Et il y avait un petit plug qui était un player où nous, on pouvait mettre sur notre site des morceaux d'autres gens. Donc ce système du partage était chouette. Et c'est là que j'ai rencontré les gens de Révolution Sound Record à l'époque, et qui est un collectif de musiciens, aussi en libre. Et du coup, j'étais sur leur forum et j'ai commencé à me renseigner. Et parallèlement, il y avait Dogmazic et dans tous ces gens qui étaient sympas, qui étaient chouettes, et c'était une communauté vivante. Je dis c'était parce que j'y suis un petit peu moins, mais j'imagine que ça l'est toujours. Hein. Et voilà, c'est comme ça que j'adhérais. Et toi ?
Ben, moi, c'est pas en termes de diffusion d'œuvres. Comme ce qui avait été évoqué un peu plus tôt lors du débat, je trouvais qu'aller vers une offre de musique libre, enfin une licence type musique libre, ça permettait beaucoup plus de facilité pour diffuser nos œuvres. Et aussi, que vu qu'on a travaillé avec beaucoup d'organisateurs de concerts, et on voit les difficultés que c'est, que ça devient vite, la gestion des droits d'auteur. Et comme ce qui était évoqué un peu par David, quand on se retrouve à être le propre organisateur de ces concerts, qu'on va jouer de nos morceaux et que si on était dans le cadre de la SACEM, on se retrouve à devoir payer le droit de jouer, d'aller sur scène. C'était quelque chose qui nous paraissait un peu ubuesque. Donc on a préféré faire quelque chose qui nous offrait le plus de liberté et de souplesse. Quoi.
Et alors justement, on va faire la transition sur Révolution Sound Record. Alors c'est un partenaire déjà du collectif Girol, parce que je pense qu'on a 2-3 émissions ou même peut-être un peu plus qui tournent en off, qui tournaient à...
Oui, les émissions tournées, mais je pense que c'est un petit peu... Ça date d'il y a un peu longtemps, donc j'imagine qu'elles ne tournent plus tant que ça. Mais bon, c'est quand même un partenaire historique. Et c'est vrai que Révolution Sound Records, c'est quand même un label, puisque c'est aussi un label, qui est quand même très actif, qui est très actif en termes de musique libre. Quoi. Il y a quand même pas mal de musiciens, donc voilà.
Et justement, David, tu as l'air assez actif...
Après, il y en a plein d'autres. C'est pas un truc pour faire la pub que pour Révolution Sound Record. Hein. Moi, j'y suis membre, j'en suis content, mais il y en a plein où chacun peut trouver sa tasse de thé. J'ai juste envie de redire propre organisateur, parce que ça avait l'air difficile à dire et j'ai réussi.
Bon, merci beaucoup. Peut-être qu'il y a des questions dans le public. Toujours pareil, il y a un micro là.
On n'est pas encore assez connu pour avoir des questions.
Non, on était hyper clair sinon.
C'est ça. Bon, en tout cas, merci. On va sûrement vous entendre de nouveau sur Radio Girol bientôt, parce qu'on va
nous aussi
aller télécharger les morceaux déjà et le mettre dans notre playlist. Est-ce que vous êtes sur les bornes Doob ? Est-ce qu'on peut télécharger ? Ah, voilà. Donc bientôt, on pourra vous télécharger sur les bornes Doob ici à la bibliothèque Jean de la ville de Miremont. et sûrement celle aussi du Grand Parc. Il y en a une au Grand Parc, Borne ? Ah ben voilà, aussi, on va bientôt pouvoir vous télécharger, ouais, vous écouter sur Radio Girol. Ou sinon, c'est jonathanetdavid.com, je crois.
Ouais, ouais. En toutes lettres. Avec,
Après, il n'y a rien sur le site.
Il y a toute la musique.
Il y a une super jolie photo avec marqué duo hip-hop du troisième type.
Ouais. C'est Jonathan qui fait tous les graphismes. Il faut quand même le féliciter. C'est beaucoup un travail visuel aussi. Ça fait partie du concept. Sur chaque titre,
Faut regarder les jaquettes.
Voilà, vous avez de très jolis t-shirts et des très jolies casquettes avec votre lettre. Voilà.
Ça, c'est Marielle. Ah. Merci Marielle.
Merci Marielle.
Bon, en tout cas, merci d'être venu. On va se souhaiter une bonne soirée à tous et à vous aussi d'ailleurs. Nous, on se retrouve du coup bientôt. On se retrouve avant le 19 mai, on se retrouve le 10 pour Radio Girol en direct du centre d'animation Saint-Pierre, comme d'habitude. Et on se retrouve le 19 mai, cette fois-ci à la bibliothèque du Grand Parc, où on sera aussi en direct avec Bugsy, Cornette et Paul-Emmanuel en termes de musique. Et au niveau du programme, on va parler de quoi ? Hein ?
Les artistes, par les artistes.
Exactement, merci David. Allez, bonne soirée à tous.
Vous écoutez Radio Girol en direct. En partenariat avec la Bibliothèque de Bordeaux.